Bonjour! Bonjour, bonsoir, bonjour, excusez-moi, je vous ai fait attendre, je suis désolé, mais quand j'ai lancé le stream, il y a un colis qui est arrivé. Je suis allé chercher le colis. Une meilleure webcam pour mes Stream Flight Simulator. Je sais, vous en rêviez. Vous l'avez réclamé à cor et à cri, c'est faux, personne ne me l'a demandé. Mais j'en avais marre de la qualité dégueulasse de ma caméra de Flight Simulator. Donc j'ai une meilleure webcam pour les Stream Flight Simulator. Et j'ai aussi reçu un bouquin qu'il faut que je lise, Contre la proportionnelle, qui vient de paraître de Julien Jeannet, aux éditions Gallimard. Je l'avais mis sur ma liste, il faut que je le lise, il faut qu'on. Voilà, intéressant, un plaidoyer contre la proportionnelle. Bah, j'avais envie de le lire pour savoir de quoi il en retourne. Et bonjour, surtout ça va, bonne année, hein, bonne année, tout ça, meilleurs vœux, incroyable. J'espère que ça roule. Toutoum, toutoum. Comme ça, on ne respecte pas son planning dès le premier jour. Ah, c'est les mauvaises résolutions. C'est les mauvaises résolutions de 2025. Ça vient à peine de commencer. On fait des streams en retard. Bah voilà, bah ça commence. Ah bah voilà. Ah bah super. Ah bah incroyable. Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous confortablement. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu profiter si vous avez pris quelques congés pour la fin d'année. Moi, j'ai fait des bêtes de vacances. J'ai fait 10 jours straight de Flight Simulator. Trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. C'était trop cool. Vraiment. Et je faisais que ça. Hein. Je dormais, je mangeais, je jouais à Flight Simulator. Pendant 10 jours straight. C'était trop bien. C'était trop bien. On a grave progressé dans la carrière. J'ai pas encore fini le jeu, mais on n'est pas très loin. Enfin, la partie carrière, en tout cas. Donc voilà quoi. Je reviens de 3 semaines en Israël, on a fêté Hanouka. Ah bah trop bien! Trop bien. J'espère que les fêtes étaient chouettes. C'était sympa d'avoir tes streams en fond. Ouais, non, mais merci, merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont suivi dans ces aventures Flight Simulator. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a passé des moments sympas, on a rigolé, on s'est bien marré, on a progressé dans la carrière, on a pris des décisions, on s'est écrasé. Assez peu, je dois dire. Mais ça a pu arriver. On a voyagé. Oh là, on a voyagé. On a vu du pays. Hein. Bon, on a vu du pays. On a vachement envie de payer. Ne pas oublier que t'as laissé mourir Aurélie sous la neige. Non mais Aurélie, elle imitait pas du sien. Aurélie, elle imitait pas du sien. Aurélie, elle est morte parce que elle voulait pas monter dans l'hélico. Voilà. Je suis désolé. On fait ce qu'on peut. Hein. À un moment, quand on fasse ça, enfin, voilà, c'est une transaction. Tu vois, il faut que ça marche dans les deux sens. Donc voilà. Ouais, 10 jours straight Flight Simulator, et après j'ai bougé chez ma copine, et voilà. Et hier soir, je suis rentré. Hier soir, je suis rentré. Plus Internet. Tu le crois, ça? Imagine, plus Internet. Moi, plus Internet. Moi, je respire le Wi-Fi. Donc j'ai failli mourir hier soir. Je me suis étranglé et tout, c'était horrible. Et y a un technicien qui est venu ce matin et qui a réparé. Merci, le technicien, d'être venu réparer. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un compte pro. C'est que t'as un technicien qui vient vite. Donc voilà, c'était mes aventures de retour de vacances. Retour au taf IRL après 9 mois en freelance, télétravail seul, j'ai hâte. Courage! J'ai eu envie de violence en lisant la déclaration de Brune Pivet pour les retraites. Est-ce que c'est normal? Non. Non, non. C'est pas tout, mais il est où le bébé chat? Le bébé chat, il est à ma copine. C'est le chat de ma copine. Donc je suis allé le voir, là, il va bien, il vous embrasse, il pense à vous. Il m'a dit qu'il pensait à vous. Et il fout le bordel. Putain, il peut pas s'empêcher de foutre le bordel tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ça existe encore les pannes d'internet, ça doit faire 10 ans que j'ai pas eu de problème. Ouais, commence pas à flexer, hein. C'est bon, ça va. Hein. C'est un bébé, c'est normal. Ah ouais, non, c'est complètement normal, c'est un bébé. Et c'est vraiment, c'est un chat fonctionnel. Ouais. Dès qu'il voit une connerie à faire, il la fait, dans la minute. C'est assez spectaculaire. Un peu compliqué. En même temps, il fait des câlins tout le temps, donc t'es trop content. Et puis quand il a envie de foutre le bordel, il fout le bordel. Non, si, c'était trop mignon. Il y avait une tempête de vent. Il y avait beaucoup de vent. Et il avait peur du vent. Il était trop recroquevillé comme ça sur moi. Il était en boule, il regardait par la fenêtre et tout. Il avait super peur du bruit, du vent. Le petit chat, il est trop mignon. Il n'est pas derrière le chat. Non, non, celui-là, il n'a pas peur du vent. Celui-là, il n'a pas peur du vent. Celui-là, il... Non, non, il est assez... Lui, il me fout la paix, globalement. Hein. On est sur un chat assez tranquille. Ouais. Donc... Donc, ouais, non, le chat qui fout le sbeul. Non, des vacances normales. Hein. Des vacances normales, des vacances avec le petit chat. T'es trop mignon. J'ai fini ton bouquin, c'était vraiment cool. Tu prépares quoi pour le prochain? C'est très gentil de ta part, merci. Je ne prépare rien du tout. Pour l'instant, je me concentre sur mes émissions. Backseat reprend dans 10 jours. On reprend Backseat le 23 janvier. Et j'ai d'autres trucs qui vont arriver. J'ai des émissions spéciales, j'ai des partenariats. Plutôt très cool qui vont arriver et on va avoir une année 2025 qui va bien commencer niveau émission un peu sympa, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ce sera annoncé en temps et en heure, mais il y a des trucs cool qui vont arriver en 2025. Je suis content, on a bien bossé. Il y aura des spéciales législatives encore. Oh là. Si tout se passe bien en 2025, il y aura des émissions spéciales législatives. Spécial 49.3, spécial élection présidentielle. Non, ça va aller vite. Hein. Ça va être spectaculaire. Hein. Spécial référendum. Oui, spécial référendum. T'as raison, j'avais oublié, mais attends. Spécial référendum. Ah non, putain, j'ai pas fini de pas dormir, moi. Cette année démarre-t-elle mieux que la précédente? Oui. Oui, compte tenu du fait qu'il y a un an, jour pour jour, j'étais dans un hôpital, on peut considérer que cette année démarre mieux. C'était pas difficile en même temps, hein. C'était pas, la barre était pas très haut. Mais cette année démarre mieux que la précédente. Spécial primaire de la gauche. Spécial primaire de la gauche, ouais. Non, ça va être chouette. Non, on va faire des émissions spéciales cette année. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Jean-Marie Le Pen était en vie. Oui, on a eu le décès de Jean-Marie Le Pen qui est intervenu au début du mois de janvier, là. Qui a été célébré par une partie de la gauche, d'ailleurs. Ce qui a fait réagir l'extrême droite, qui n'était pas contente qu'on célèbre la mort de Jean-Marie Le Pen. Bon, classique, hein. Je sais pas à quoi vous vous attendiez. J'ai dit, bon, oui, jusque-là, d'accord. D'accord. Il est mort le jour de mon anniversaire. Ah, oh, ça a gâché ton anniversaire, du coup, on n'a pas eu la news. C'est con, c'est passé en dessous. T'as fêté, toi? Non. Non, non. Tikanis, merci pour ton resub. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements. Merci pour vos subs et vos resubs, ça fait super plaisir. Merci, très content de vous retrouver pour cette rentrée. Ça a masqué les hommages à Charlie. Oui, ça c'est vrai, ça a masqué les hommages à Charlie, les 10 ans. Putain, c'était il y a 10 ans, vous vous rendez compte? 10 ans, les attentats du 7 janvier 2015. Ça a fait réagir au-delà de l'extrême droite, c'est surtout ça le problème. Ah oui, la mort de Jean-Marie Le Pen, alors ça c'est vrai, comme marqueur de l'extrême droitisation du paysage politique et médiatique, on a effectivement vu des trucs qui à 15 ans, 20 ans, auraient paru totalement lunaires. Un espèce d'hommage du Premier ministre en exercice, complètement incroyable. Président de la République aussi qui a dit un mot, les chaînes de télé qui ont couvert ça... Et le Figaro Magazine qui fait sa une sur Jean-Marie Le Pen en racontant son périple, son aventure, son histoire, etc. Tu te dis, mais putain, mais quand t'as connu le Figaro des années 90-2000, le Figaro, ça me fume. Enfin, ça en dit long, malheureusement, sur ce qu'est devenu le Figaro. Il a longtemps été un journal libéral-conservateur classique de droite, mais qui détestait l'extrême droite. Et qui détestait particulièrement le pénisme. Enfin, Jean-Marie Le Pen, la vulgarité d'une extrême droite hableuse, vindicative, revancharde. Le Figaro, pendant des décennies, pour eux, c'était à gerber, cette extrême droite-là. Et là, non, non, ça a changé, c'est plus pareil. Oui, Marine Le Pen qui déclare qu'elle regrette d'avoir écarté Jean-Marie Le Pen. Ce qui est intéressant parce que Marine Le Pen a exclu Jean-Marie Le Pen du Front National. C'est quand même pas rien comme décision, pardon. Hein, c'est quand même pas... Ce qui est quand même loin d'être ridicule. C'était un des arguments de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen. C'est quand même... C'est vous dire à quel point la dédiabolisation est allée suffisamment loin. La dédiabolisation est arrivée à un tel point que d'autres camps politiques et d'écoles de pensée que l'extrême droite regrette la mort de Jean-Marie Le Pen, et Marine Le Pen peut annoncer calmement qu'en fait elle regrette cette décision d'avoir exclu son père, qui était pourtant une marque de fabrique de sa dédiabolisation. C'est fou. Ce qui montre qu'il n'y a plus besoin de dédiaboliser quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On est arrivé au bout du cycle, en fait. Je pense que c'est surtout une phrase sortie du cœur. Je veux dire que ça vient d'un sentiment, c'est son père malgré tout. Mais oui, mais c'était son père malgré tout au moment où elle a décidé de l'exclure. C'est ça que je veux dire. Pourquoi ce serait plus son père maintenant qu'à l'époque ? Elle regrette en tant que fille. Bah oui, je comprends qu'elle regrette en tant que fille, mais elle est aussi présidente d'un mouvement. Alors, elle n'est plus présidente, c'est Jordan Bardella le président. Je sais pas, bizarre. Enfin, bizarre, non. Je sais pas pourquoi je dis bizarre. Non. On est dans la droite ligne d'une dédiabolisation. Maintenant, voilà. Le Rassemblement National a terminé sa mue. Ce n'est pas un parti d'extrême droite. C'est un parti de droite classique avec lequel on doit nécessairement débattre, qu'on doit inviter partout. C'est normal. Sa place, elle est partout, etc. Et à l'inverse, la gauche, par contre, elle est intolérable. La gauche... Elle sort du champ républicain, la gauche, elle crie trop fort, la gauche... Bon, hors sujet, j'ai reçu un bouquin. Parce que maintenant, les maisons d'édition m'envoient des bouquins, donc on va regarder. C'est quoi ce bouquin ? C'est sous la direction de Vincent Martini, un livre qui s'appelle « Les temps nouveaux, en finir avec la nostalgie des 30 glorieuses ». Vous vous souvenez, les 30 glorieuses, c'est les 30 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, les temps qui étaient dopés par la croissance économique. Et depuis la fin des 30 Glorieuses, tout le monde cherche à retourner à l'époque des 30 Glorieuses. Il y avait de la croissance, ça finançait le modèle social, tout le monde était content, etc. Vincent Martini qui me l'a dédicacé. Bien cordialement, merci. Merci pour la dédicace, c'est cool. C'est un livre qui a été écrit avec Claire Allais, Laurent Berger, Audrey Célestine, David Jaïz, Eric Fotorino, François Jemaine, Samuel Ayat, Étienne Klein, Raphaël Yorca, Maya Mazoret, Dominique Méda, Michel Perrault, Thomas Schlesser. Et qu'est-ce que ça raconte ce livre ? Les Trente Glorieuses sont-elles un mythe indépassable ? Dans notre époque incertaine, la nostalgie de ces années de prospérité et d'insouciance s'invite partout. Pas un jour ne passe sans que soit vanté un monde de liberté adossé à des valeurs traditionnelles, une société éprise de travail, une France culturellement homogène, traversée par des clivages politiques invariables. Des temps plus simples et plus optimistes, dans lesquels la fin du mois et la fin du monde étaient moins confondus qu'aujourd'hui. Et mais c'est aussi parce qu'à l'époque, Enfin, je veux dire, des règlements climatiques, on ne savait même pas que ça existait. La mélancolie pour le passé semble naturelle lorsqu'elle pleure le paradis perdu de la jeunesse et des illusions éteintes. Mais lorsqu'elle se mue en récit politique, ne nous empêche-t-elle pas de faire face aux défis du présent et de préparer l'avenir ? Ce livre donne la parole à 14 autrices et auteurs qui se penchent sur cette tendresse pour un passé vécu comme une promesse brisée. En posant leur regard sur différentes facettes de notre société, de la sexualité à la croissance, de la consommation à l'environnement et au travail, de la famille à l'autorité politique et aux mouvements sociaux, tous constatent l'impasse d'un hypothétique retour aux solutions d'antan. Pour en sortir, ils proposent les coordonnées d'un nouvel imaginaire politique afin d'entrer dans les temps nouveaux qui sont les nôtres. Intéressant. Intéressant, intéressant. Eh bien écoutez, voilà, un livre à lire si vous voulez vous interroger sur le mythe des Trente Glorieuses et la fin de cet imaginaire. Par quoi on le remplace ? De quoi on rêve aujourd'hui ? À quoi on rêve aujourd'hui ? À part ouvrir des boosters Pokémon. Est-ce qu'on pourra suivre le discours de politique générale de Bayrou sur ta chaîne demain ? Oui. Demain, mesdames et messieurs, à partir de 14h, en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier, le service public, vous pourrez suivre le discours de politique générale du Premier ministre François Bayrou. Et cette phrase me fait mourir de rire. Mais il va falloir s'y faire. Il va falloir s'y faire, c'est plus Barnier. C'est plus Barnier, c'est Bayrou. On va écouter son discours de politique générale. Que François Bayrou, prépare dès aujourd'hui avec des négociations dont on va parler évidemment. La crédibilité du gouvernement finito. Alors ça ne dépendra pas du discours de politique générale. Qui n'est qu'un exercice symbolique en réalité, la crédibilité du gouvernement dépendra de sa capacité à échapper à une motion de censure. Comme vous le savez, le but pour un gouvernement, c'est soit d'avoir une majorité absolue de députés qui le soutiennent, ça, depuis 3 ans, c'est un peu oublié, soit d'avoir à minima des motions de censure qui ne sont pas adoptées. Michel Barnier, le regretté Michel Barnier, avait essayé de trouver une voie qui consistait à bénéficier de l'abstention de voter les motions de censure du Rassemblement national. Ça a marché 3 mois. Ça a marché 3 mois et puis ça s'est cassé la gueule parce que Marine Le Pen a changé de point de vue et a décidé de censurer Michel Barnier. Vous l'avez vécu en direct sur ma chaîne, c'était l'année dernière, c'était en fin 2024. François Bayrou a été nommé Premier ministre et François Bayrou, lui, négocie avec une partie de la gauche. Il semble avoir acté le fait que l'extrême droite allait voter la censure et il décide de négocier avec une partie de la gauche pour essayer de voir s'il y a moyen d'obtenir d'une partie de la gauche qu'elle s'abstienne de voter les motions de censure. Ce sera quoi le temps minimum pour la censure ? Ça va assez vite, hein, la censure elle va être déposée, elle a peut-être même déjà été déposée en réalité. Ou alors non, il faut que le discours de politique générale ait été prononcé, je sais plus. Mais ça va assez vite, c'est 48 heures après le dépôt, hein, l'examen des motions de censure, donc ça va assez vite. Comment tu l'aperçois, toi, cette situation politique, disons, depuis la dissolution ? Est-ce que tu es blasé ou est-ce que tu trouves ça excitant, captivant ? Mais ni l'un ni l'autre. Hein. Moi, je mets mes émotions de côté. Je regarde froidement, j'analyse, je regarde les comportements d'acteurs. Voilà. Pour l'instant, c'est assez... à l'exception du Rassemblement National qui a changé d'avis en 3 mois, pour l'instant, c'est assez standard. Hein. Ce qui se passe, chacun est dans son rôle, chacun joue sa partition de manière assez classique. La question est de savoir s'il y aura censure ou pas censure. François Bayrou compte sur l'abstention des socialistes de voter la censure. Et les socialistes, en échange de leur acceptation de voter la censure, ils demandent une politique économique qui correspond davantage à leur programme et la suspension de la réforme des retraites et la remise à plat de la question de l'âge légal de départ à la retraite. Donc il y a des négociations qui ont lieu actuellement entre les socialistes et François Bayrou sur ce sujet. On a entendu dire que François Bayrou était potentiellement ouvert à la possibilité, à l'idée en tout cas, de mettre sur pause la réforme des retraites et convoquer une conférence sociale pour parler du financement. Est-ce qu'il va aller jusqu'à suspendre effectivement la réforme des retraites? Ça, c'est une question. Pourquoi la DPG arrive aussi tard après l'annonce du nouveau gouvernement? Est-ce que la loi impose un délai? La loi n'impose pas de délai pour la déclaration de politique générale. Et puis, c'est parce qu'il y avait les vacances parlementaires. Il y avait une période de vacances qui était prévue de toutes les manières. Si tu te souviens, entre la nomination de Michel Barnier et la déclaration de politique générale, c'était pareil. On a attendu la reprise des travaux à l'Assemblée pour avoir la déclaration de politique générale. Est-ce que c'est possible d'un point de vue juridique de suspendre la réforme? Oui, c'est possible. Il faut qu'on parle aussi du profil du ministre de l'économie, Éric Lombard, héritier de la deuxième gauche, parce que visiblement, ça fait partie aussi des éléments que François Bayrou met en avant pour essayer d'amadouer le Parti Socialiste. On va lire un article du Monde. Hop. On va lire un article de Monde, du Monde sur justement les questions de cette rentrée pour François Bayrou. C'est un article assez rapide. Après, je m'en suis mis d'autres de côté. Non, c'est pas cet article-là d'ailleurs. C'était celui-là que je voulais lire. Boum. Mais qui est un peu plus long. Hop, hop. Alors, du budget aux retraites, François Bayrou à l'heure du grand arbitrage. Un article de Sandrine Cassini et de Denis Connard. Ou Cosnard, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé. Les socialistes sont prêts à valider le budget en échange d'une suspension de la réforme des retraites. Le Premier ministre doit encore rendre un arbitrage définitif après d'ultimes tractations dimanche à Bercy avant d'officialiser ses choix dans sa déclaration de politique générale mardi devant les parlementaires et en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Oui, il y a un truc que j'ai pas dit qui est important, c'est que François Bayrou, que vous voyez là souriant sur la photo, il est Premier ministre, formidable, félicitations, mais il n'y a pas de budget. L'année 2025, il ne vous aura pas échappé qu'elle elle a démarré il y a 13 jours déjà, et elle n'a pas de budget. Nous n'avons pas de loi de finances. Pourquoi? Parce qu'en décembre dernier, il y a une loi d'exception qui a été votée. Une loi d'exception qui, en gros, permet au gouvernement de continuer d'utiliser les crédits de l'année dernière pour le début d'année. Mais on a quand même besoin d'un budget. Donc, le discours de politique générale de François Bayrou, c'est bien, c'est mignon. Mais l'enjeu, il n'est pas d'un discours de politique générale. L'enjeu, c'est d'avoir un budget. Et autant François Bayrou peut potentiellement échapper à une motion de censure, on va en parler, autant est-ce que François Bayrou va réussir à faire voter un budget? Là, il faut une majorité absolue, hein, qui vote le budget. Ou alors 49-3, tu me diras. Tu rattrapes le truc avec le même bordel sur la motion de censure. L'heure du grand arbitrage est venue. Un mois jour pour jour après sa nomination à Matignon, le 13 décembre 2024, François Bayrou doit trancher d'ici à mardi 14 janvier une question centrale. Quelle politique veut-il mener et avec quels alliés? Pour faire passer son budget avec le soutien d'une partie de la gauche, est-il prêt à suspendre, à abroger ou à corriger la réforme des retraites d'avril 2023, dont la droite et les macronistes ont fait leur étendard? À l'issue de 15 jours de tractations inédites, c'est au Premier ministre de décider, avant d'officialiser ses choix dans sa déclaration de politique générale prévue mardi devant les parlementaires et sur Twitch. Hier, inimaginable, un accord sur le sujet entre le gouvernement Bayrou et la gauche non mélenchoniste semble à présent possible. Pour le moment, les négociations se poursuivent sans que personne n'ait quitté la table, ni à gauche, ni au sein du socle commun qui soutient le Premier ministre, se réjouit-on à Bercy. C'est déjà un bon signe. C'est vrai. On prend ce qu'on peut, hein. Mais personne n'a claqué la porte. c'est déjà une manière de dire, si on veut vraiment voir le verre d'eau à moitié plein, on peut se dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Une séance de discussion a encore eu lieu dimanche après-midi à Bercy entre le ministre de l'économie Éric Lombard et les écologistes. À l'approche de l'heure fatidique, tous les partis maintiennent la pression. Aujourd'hui, le compte n'y est pas du tout, met en garde Cyrielle Chatelain, la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. On ne veut pas de l'hypothétique, du flou, mais des choses concrètes. On ne se fera pas piéger. Discours voisin, côté socialiste. Le compte n'y est pas encore, et en l'état, nous censurerions. Le gouvernement a martelé dimanche le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, sur BFM TV. Cependant, les feux commencent à être verts, un accord peut se dessiner, avance le chef de file des députés socialistes en matière budgétaire, Philippe Brun. On sent des choses, mais on n'a pas le moindre écrit à ce stade, précise le président du groupe PS au Sénat, Patrick Kanner. Chercher un compromis avant d'entrer dans le chaudron de l'Assemblée nationale était une bonne idée, appuie le député Renaissance de Paris, David Amiel. L'équation n'est pas insoluble, je suis optimiste. Dans l'immédiat, la motion de censure que doit déposer la France insoumise après la déclaration de François Bayrou ne suscite pas de grande inquiétude à Matignon. Peu de chances que cette motion soit adoptée quand elle sera examinée jeudi ou vendredi. Il n'y aura pas de censure a priori, a promis à plusieurs reprises le Rassemblement national qui ne compte pas mêler de nouveau ses voix à celles de la gauche, comme lorsqu'il a fait tomber Michel Barnier le 4 décembre 2024. Bon, sur la première motion de censure déposée par la France insoumise seule, a priori, François Bayrou, il n'a pas d'inquiétude. Pourquoi ? Parce que le RN ne va pas la voter, celle-là. Il votera peut-être plus tard, mais celle-là, il ne va pas la voter. Bon. L'enjeu du grand oral de mardi après-midi réside au-delà. Tirant les leçons de la chute de son prédécesseur, François Bayrou a renoncé à miser sur un quelconque accord avec le RN. Que le RN n'est pas fiable, on peut arrêter de discuter avec eux. Pour agir, et à court terme, faire enfin adopter un budget pour 2025, le maire centriste de Pau souhaite obtenir l'abstention bienveillante de la gauche non LFI. En particulier des socialistes qui, avec leurs 66 députés, se retrouvent en position charnière. Alors, on va vérifier ça tout de suite. On va vérifier ça tout de suite. Si la motion de censure est votée par tout le monde, sauf les socialistes, qu'est-ce que ça donne ? LFI, communiste, écologiste, Rassemblement national, UDR. 266, c'est pas suffisant. Donc effectivement, si les socialistes s'abstiennent, ils peuvent faire éviter une motion de censure à François Bayrou. Par contre, s'ils la votent, terminé. Fin du game. Il y a aussi une autre inconnue, c'est la droite républicaine. On va en reparler. Parce que est-ce que le fait de faire alliance avec les socialistes vont faire perdre à Bayrou les républicains ? Est-ce qu'ils vont vraiment quitter le navire ? Ils menacent de le faire, ils ont raison de menacer de le faire, on est en phase de négo. Phase de négo, chacun monte les muscles. Mais est-ce que la droite républicaine va aller jusqu'à voter une motion de censure ? À suivre sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Mais c'est peu dire que la donne est complexe. Politiquement, d'abord, pour accepter de ne pas censurer un gouvernement qui compte quelques-uns de leurs bêtes noires, comme Gérald Darmanin, Bruno Retailleau ou Elisabeth Borne, la gauche modérée a posé ses conditions. Les socialistes ont transmis une lettre de 5 pages comportant 40 propositions. En tête de liste arrive, pour les socialistes comme pour les écologistes et les communistes, la suspension ou l'abrogation de la réforme des retraites, adoptée malgré l'hostilité des syndicats et d'une majorité de Français. À cette requête décisive s'ajoutent de nombreuses mesures. Les socialistes réclament des gestes de justice fiscale et une augmentation du SMIC. Les écologistes, 7 milliards d'euros d'investissement dans la transition écologique, etc. Classique, en égo, t'arrives toujours avec un prix assez élevé. C'est la base. Après, on discute. François Bayrou peut-il abroger la réforme des retraites ? Il l'a exclu jusqu'à présent. En suspendre l'application, le temps d'en revoir les contours, notamment sur l'âge légal de départ repoussé dans le texte à 64 ans ? À droite, le sujet est éminemment sensible. Ni suspension, ni abrogation, a tonné le président du Sénat, Gérard Larcher, samedi dans Le Parisien. Suspendre la réforme sans scénario alternatif reviendrait à sauter dans le vide sans parachute. Ce sera sans la droite républicaine, a abondé dimanche dans le même journal le chef des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez. Est-ce que ça veut dire que Laurent Wauquiez va jusqu'à dire qu'il ne votera pas le budget s'il n'y a pas de mesure d'âge? Philippe Brun discerne néanmoins deux signaux positifs. Philippe Brun, c'est un socialiste, hein, je rappelle. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il n'émettait pas de veto à une suspension. Et Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a dit que cela débloquerait la situation politique. S'il faut arrêter pour rediscuter avec un cycle très court de discussion, je n'y suis pas opposé, a déclaré la présidente de l'Assemblée sur France Inter, citant un délai de négociation de 6 mois. L'idée d'une suspension de la réforme est cependant loin de faire l'unanimité à gauche. LFI s'y montre résolument opposé. Le minimum, c'est l'abandon de la réforme des retraites, plaide ainsi le député écologiste ex-LFI de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Toutes les astuces sémantiques des différents ministres ne sont que du vent, des promesses ou de simples combines pour gagner du temps. Pour tous les négociateurs, la situation est légèrement complexifiée par de multiples contraintes juridiques. Le gouvernement ayant choisi, pour aller vite, de reprendre en l'état le projet de budget préparé par Michel Barnier, il ne peut, en vertu des règles parlementaires, intégrer de nouvelles mesures au texte. Ah bon ? J'avais pas ça en tête. Ah, il a déposé le texte déjà ? Bah oui, en même temps, tu me diras, on est déjà le 13 janvier. Ah. Exit, par exemple, l'impôt climatique sur la fortune réclamée par les écologistes. De plus, plusieurs taxes clés du projet Barnier, celles sur les très hauts revenus ou les profits des grandes entreprises, tombent à l'eau, faute d'avoir été votées avant la fin du mois de décembre 2024. Ah bah oui, parce que c'était par amendement, c'était pas dans le texte original. Oh putain. Non mais c'est bon, tu fais une loi de finances rectificative. Vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est bon. Tu fais une LFR dans la foulée de loi de finances initiale. Allez, c'est bon, vas-y, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Bercy assure chercher des solutions. Elle pourrait voir le jour dans un autre texte que le budget 2025, comme l'a très justement suggéré le streamer Jean Massier. Oui, mais il est con, le streamer Jean Massier, parce que si tu fais une LFR dans laquelle tu mets que des mesures de justice fiscale avec un report de l'âge légal, t'es sûr que la droite et l'extrême droite le votent pas ? Est-ce que le socle commun voterait avec la gauche une loi de finances rectificative ? Je vois pas pourquoi. On verra. À cela s'ajoute une contrainte financière majeure, la nécessité réaffirmée par le gouvernement de ramener le déficit aux alentours de 5,4% du produit intérieur brut en 2025, donc de trouver de nouvelles recettes ou des économies. À ce stade, François Bayrou, n'a rien dévoilé en la matière, encore un peu de suspense. On en est là. En cette rentrée, les négociateurs montrent les muscles. Les négociateurs montrent d'autant plus les muscles qu'on approche de la date fatidique du 14, c'est demain. Et que donc, tout le monde est pendu aux lèvres de François Bayrou et de ce qu'il va annoncer dans son discours de politique générale. Le PLF partie 2 version Barnier est examiné cette semaine au Sénat et le PLFSS version issue de la CMP va suivre. Je ne vois pas du tout ce que ça change puisque le gouvernement ne peut y introduire de nouvelles mesures. Il doit les faire introduire via des amendements parlementaires. Alors tu as raison, c'est soit des amendements parlementaires, soit une loi de finances rectificative dans la foulée. Et ce ne sera pas la première fois qu'on voit ça. Hein. Petit budget rectificatif en 2-2 au premier trimestre. On en a déjà vu. Hein. On en a déjà vu. Donc, bon. Et ces discussions fâchent beaucoup de LFI contre les écolos et le PS, j'ai l'impression. Oui, mais ça, c'est normal, ça. Bon, il l'avait dit depuis le début, LFI, qu'ils étaient contre. Pour le coup, ils sont très cohérents. Enfin, non pas que les socialistes et les écologistes le soient pas, mais les insoumis, ils ont dit dès le début qu'ils voulaient pas discuter. Donc ils vont pas soutenir les gens qui vont discuter. Oui, mais dire aux oppositions, y compris l'ex-droite, votez notre PLFSS que vous avez censuré, on fera un PLFSSR tranquille. C'est bof, oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais oui. Non, mais il faut faire preuve d'imagination. Je veux dire, j'ai envie de te dire, on est arrivé à un moment où tout est tellement absurde, on n'a pas de budget, on est début janvier. Si c'est qu'une question de tuyauterie, les tuyaux, on les trouve. Est-ce que ça signe la fin du NFP ? Ça, c'est pas sûr. Ça, c'est pas sûr. Parce que mettons qu'Emmanuel Macron dissolve l'Assemblée nationale en juin prochain, comme la Constitution le l'y autorise. Est-ce que vous pensez que les insoumis, les socialistes, les communistes et les écolos ont intérêt à y aller séparément? On verra. Honnêtement, on verra. On verra s'il y a des changements de pied, s'il y a des arguments supplémentaires, etc. On verra. Sauf si proportionnel d'ici là. Très bon point, tu as parfaitement raison. Si on vote la proportionnelle d'ici à juin prochain, effectivement, là, il n'y a plus de NFP. Parce qu'il n'y a plus besoin de NFP. Oui, pour couler définitivement le PS. Mais oui, mais non, ça marche pas comme ça. Quand tu fais une élection législative au scrutin majoritaire uninominal à deux tours par circonscription, t'as pas intérêt à te priver du PS quand tu t'appelles LFI. T'as pas intérêt à avoir des candidats PS dans les circonscriptions où il y a des candidats LFI. C'est une machine à perdre pour tout le monde. C'est ça l'intérêt de la NUPES et du NFP. C'est pour ça que ça a été créé. Et inversement. Il y a quand même besoin d'alliance pour une proportionnelle où tu as un exemple, un minimum de 5% pour avoir une représentation. Oui, mais ça, un minimum de 5%, les socialistes et les insoumis, ils les auront. Donc c'est pas le sujet. Par contre, si tu crées un système de primes majoritaires, là, on peut en discuter. Mais tu as raison de faire remarquer que tout dépend de la proportionnelle qu'on met en place. La proportionnelle, c'est pas magique. Il y a plusieurs types de proportionnelles qui impliquent différents comportements d'acteurs. Le PS n'a pas de militants, donc aux prochaines législatives, il saute. Non, c'est pas un bon argument, ça marche pas. Je te rappelle que La République En Marche, ils ont réussi à avoir plus de 300 députés avec zéro militant. Bon, ça empêche rien. On va regarder quand même cette histoire de suspension. Hein, de la réforme des retraites, de quoi on parle? Est-ce qu'on joue sur les mots? Abrogation, suspension, ajournement, rectification, quels sont ces mots? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Un nouvel article, toujours du Monde, de Bertrand Bissuel. Question autour d'une possible suspension de la réforme des retraites. Si elle devait se confirmer, la mise entre parenthèses de la loi du 14 avril 2023 soulève des interrogations d'ordre pratique et juridique. Parce qu'effectivement, suspendre une loi votée, c'est pas le genre de truc que spontanément j'imagine possible facilement. Mais vu que c'est une loi budgétaire et vu qu'on parle du financement de l'État, des caisses de retraite, etc., il y a sûrement des tuyaux, il y a moyen. On va voir. Oh, la belle table de réunion, regardez. Olivier Faure, Boris Vallot, Philippe Brun, Patrick Kanner, Éric Lombard, Amélie de Montchalin et les autres, j'ai pas guisé. La négo avec le ministre de l'économie et des finances. Plus facile à dire qu'à mettre en œuvre. Depuis plusieurs jours, l'idée de suspendre la réforme des retraites émerge à la faveur des tractations entre le gouvernement et une partie de la gauche. À ce stade, rien n'est tranché, assurent deux sources au sein de l'exécutif, en soulignant qu'il convient d'attendre la déclaration de politique générale prononcée mardi 14 janvier par le Premier ministre François Bayrou à l'Assemblée nationale. Mais si cette hypothèse, envisagée par l'équipe au pouvoir à la demande du Parti socialiste, se confirme, elle soulève beaucoup d'interrogations d'ordre pratique et juridique. La loi du 14 avril 2023 cherche à maintenir les travailleurs plus longtemps dans l'emploi, notamment en repoussant progressivement de 62 à 64 ans l'âge légal de départ à raison de 3 mois par génération. Ça, je vous avais expliqué à l'époque, en 2023, quand on en parlait, la réforme, etc., machin, l'entrée en vigueur est progressive. On passe pas de 62 à 64 en claquant des doigts. C'est année après année qu'on augmente le nombre de trimestres nécessaires pour faire valoir ses droits. Et encore, je dis année après année, mais tu peux modifier ça modulo ce que tu veux avec les mesures de calcul que tu veux. Ainsi, depuis le 1er septembre 2023, les personnes nées entre début septembre 61 et fin décembre 61, doivent, sauf exception, avoir au moins 62 ans et 3 mois pour obtenir le versement de leur pension.
celles nées en 62 sont tenues d'avoir atteint l'âge minimal de 62 ans et 6 mois. Et ainsi de suite jusqu'aux personnes nées à partir de début 1968. Elles devront attendre leur 64e anniversaire pour partir à la retraite. Donc c'est 3 mois par 3 mois. C'est incrémental. Par tranche de 3 mois, tu vois. Aujourd'hui, le PS veut que la réforme soit suspendue et que, en parallèle, les pouvoirs publics ouvrent des discussions avec les partenaires sociaux pour remettre à plat les règles promulguées il y a presque 2 ans. L'une des questions qui se pose est de savoir ce que signifie concrètement la mise entre parenthèses de la loi du 14 avril 2023. Celle-ci a pour effet, depuis le 1er janvier de cette année, de reporter à 62 ans et 9 mois l'âge légal de départ pour les personnes nées en 1963. Stopper au moins momentanément l'application du texte veut-il dire que l'on en reste là, 62 ans et 9 mois, pour les générations suivantes, pour interrogation ? Ou que le calendrier de mise en œuvre est modifié ? Autre option, évoquée par un protagoniste au cœur des pourparlers, annoncer une suspension qui entrerait en vigueur en 2026, dans l'intention de figer l'âge légal de départ à 63 ans. Concrètement, la requête des socialistes ne va donc pas de soi. Il faudra préciser, si jamais l'idée perdure, ce qu'on entend par gel de la réforme des retraites, confie Dominique Libault, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale. Les délais pour déposer une demande de retraite, 6 mois environ, devront être pris en compte et il conviendra d'être très clair afin d'éviter toute confusion pour les intéressés. La procédure à suivre n'est, elle, non plus pas évidente. Si on veut suspendre l'exécution d'une loi, c'est la loi elle-même qu'il faut modifier, explique Émilien Quinard, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Jusque-là, je suis assez d'accord avec... Enfin, c'est... La loi, elle a été votée, tu veux la modifier, tu fais une nouvelle loi. Mais tu peux pas... Dans cette configuration, rien ne garantit que le gouvernement trouverait une majorité au Parlement pour qu'une telle disposition soit adoptée. Mais il existe peut-être une autre voie, comme le relèvement progressiste de l'âge légal de départ est passé par décret. Un nouveau décret peut retarder l'échéance, c'est-à-dire décaler dans le temps l'augmentation de l'âge pour chaque génération, estime Laure Camagi, maîtresse de conférence en droit social à l'Université Lyon 2. D'accord. Donc le décret d'application continue à appliquer la loi, mais on décale l'entrée en vigueur à plus tard, ce qui permet de geler le truc. Ok. Oui, ok. Parmi toutes ces inconnues, une certitude se dégage. L'inquiétude croissante du patronat qui craint que les réflexions en cours aboutissent à une remise en cause de la retraite à 64 ans. Ce serait une erreur économique et budgétaire majeure, confie Éric Chevet, vice-président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. L'abandon de cette mesure d'âge, sans autre compensation, aggravera le déficit abyssal de notre régime de retraite, renchérit Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité. Alors qu'une abrogation... Ah, une abrogation, tu peux pas le faire par décret, non. Non, une abrogation, par définition, tu dois voter une nouvelle loi. Donc tu dois trouver une majorité à l'Assemblée nationale qui accepte de voter un retour à l'âge de 62 ans. Surprise, le patronat est contre. Mais non, mais le patronat, il est contre, notamment parce que le patronat, il voit arriver gros comme une maison une conférence sociale. Une conférence sociale de négociation avec les partenaires sociaux où ils vont venir en disant c'est mort. Disons qu'ils sont dans leur rôle, quoi. Il faut financer l'abrogation. Ah, si tu abroges la réforme des retraites, tu dois proposer des pistes de financement. Mais les députés de gauche, pour le coup, ils ont des pistes de financement. Hein. Ils savent où trouver l'argent. Hein. Donc, ok, bon, ça reste quand même encore un peu... sujet à caution, cette suspension de la réforme des retraites. Mmh. Il y a assez de voix au Parlement pourvu que l'extrême-centre arrête son obstruction. J'adore. Ouais. Ah bah, oui, si tu rajoutes du pourvu que les mecs d'en face votent pas, oui, je suis majoritaire. Oui. Même moi, je peux être élu président de la République. S'il y a suffisamment de gens parmi vous qui votent pas, je peux devenir président de la République. C'est bon. Il y a assez de voix au Parlement si tout le monde vote pour. C'est une autre manière de dire la même chose. Absolument. Absolument. Oui, non, c'est vrai. On vote pour Jean ici. Ouais, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de votre fidélité. Il faut pas une participation minimum pour les présidentielles? Non. Non. Je voulais qu'on parle aussi du ministre de... Attends, je regarde juste. Non. Ah non, si, tiens, on va continuer sur cette réforme des retraites. On va continuer sur les débats réforme des retraites avec l'interview qu'a donné Olivier Faure, c'était hier, à Libération, du coup, le premier secrétaire du Parti Socialiste qui nous explique du coup la position du PS, qui accepte d'aller négocier et qui essaye d'obtenir cette suspension, encore sujette à caution, de la réforme des retraites de 2023. Olivier Faure sur le budget, pour l'heure, le compte n'y est pas encore. Le premier secrétaire du PS, qui négocie avec le gouvernement pour tenter de faire pencher le budget à gauche, demande à François Bayrou de choisir entre la gauche et l'extrême droite. Et il exclut pas de voter une motion. Motion de censure, en l'occurrence. Parce que bon, les autres motions, on s'en fout un peu. Plus personne ne sait compter les heures de discussion. Depuis le 6 janvier, les socialistes, rejoints par les écologistes et les communistes, mais sans les insoumis qui les accusent de compromission, négocient avec le gouvernement pour tenter de trouver un accord sur le budget. En lien avec le ministre de l'économie Éric Lombard, ils demandent une augmentation du SMIC et du point d'indice des fonctionnaires, le maintien de services publics, le soutien à l'activité économique, une bifurcation écologique ou encore plus de justice fiscale. Point clé des négociations, la réforme des retraites. Les Verts demandent son abrogation, les socialistes sa suspension. Hop. Et si ce week-end, Gérard Larcher, le patron des sénateurs LR, a prévenu que les siens s'y opposaient et que Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, jugeait qu'une suspension de la réforme des retraites sans mesure de financement serait irresponsable, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, a, elle, affirmé ne pas être opposée par principe au fait d'arrêter brièvement. Mardi, lors de la déclaration de politique générale, le Premier ministre, qui s'était arrêté mi-décembre à la ligne « reprendre sans suspendre », devra trancher. À défaut d'avancées significatives, socialistes, écologistes et communistes menacent de voter la motion de censure que défendent les insoumis. À François Bayrou, désormais, de choisir entre une négociation exigeante avec la gauche et sa mise sous tutelle par Marine Le Pen, prévient Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. Alors, où en sont les négociations ? Il y a une progression notable. Ce que je peux constater, c'est un changement d'attitude du côté du gouvernement. Nous n'avions jamais connu un dialogue aussi nourri depuis 7 ans. Jusqu'ici, la mise en scène de discussion tenait lieu de viatique. Cette fois, il s'agit d'un échange ininterrompu avec la confrontation d'arguments et de solutions. Nous partons de points de vue opposés, et de toute évidence, si nous voulons aboutir, personne ne gagnera sur toute la ligne. Cela suppose que chacun accepte que ce ne soit pas tout son programme, rien que son programme, ou tout son bilan, rien que son bilan. Manière pour Olivier Faure de se démarquer de Jean-Luc Mélenchon, qui avait affirmé en juin 2024 que le NFP devait appliquer tout son programme, rien que son programme. Et tout son bilan, rien que son bilan, ça c'est pour les macronistes. Vous ne pouvez pas vous accrocher, vous ne pouvez pas espérer avoir un accord avec les socialistes si vous vous accrochez comme des moules sur un rocher à votre bilan et que vous ne voulez rien en changer. Vous avez envoyé à Bercy une liste de 37 mesures. Qu'avez-vous obtenu ? Je me limiterai à vous dire qu'au moment où nous parlons, le compte n'y est pas encore et que nous continuons de négocier. Sur la réforme des retraites, Jean-Luc Mélenchon vous accuse de revirement complet, de vouloir changer de système en allant vers la capitalisation ou un système à points. Est-ce que c'est le cas ? Non. Ce qu'il faut changer, c'est le système de financement qui repose aujourd'hui sur le recul de l'âge légal à 64 ans. Le système à points, à supposer que ce soit la solution, est impossible à mettre en œuvre dans un délai court. Le gouvernement s'y est déjà cassé les dents avec la crise Covid. Personne ne le demande, y compris parmi les promoteurs dans le monde syndical. Parmi ces promoteurs dans le monde syndical. Jean-Luc Mélenchon est dans un exercice de disqualification en cherchant à faire passer tous ceux qui ont le courage de ne pas se limiter à l'incantation pour des renégats. D'accord. Donc Olivier Faure se revendique être parmi ceux qui ne se limitent pas à l'incantation. Sous-entendu, Jean-Luc Mélenchon, il fait de l'incantation, il refuse de la négociation, il fait que parler dans des micros pour incanter des trucs, alors que nous, on a le courage d'aller discuter. Non, mais la gauche vit bien, tout va bien. Que réclamez-vous ? Vous qui avez parlé de gel, de suspension de la réforme, quand vos partenaires du NFP demandent toujours son abrogation. La suspension, c'est le gage donné à une discussion qui ne peut pas être un enfumage. Elle doit durer aussi longtemps que la discussion et s'interrompre avec une loi qui viendra remplacer la loi Macron-Dussault. Ça, c'est la loi d'avril 2023. Les écolos demandent 7 milliards de crédits en plus sur la transition écolo. Vous aussi, je partage leur point de vue. Notre responsabilité est majeure au moment où un climato-sceptique notoire va entrer à la Maison-Blanche. La France et l'Union européenne doivent porter le drapeau de la bifurcation écologique. Combien faudra-t-il de catastrophes comme à Mayotte ou en Californie pour que nous prenions tous conscience de la nécessité d'avancer et vite ? Ce que nous demandons, c'est que les crédits pour l'environnement ne soient pas le moyen de réaliser des économies faciles parce que peu visibles. Il dit pas grand-chose, Olivier Faure, dans cette interview. Enfin, c'est. À quel niveau de déficit pensez-vous qu'il faudra atterrir ? La trajectoire de réduction des déficits ne doit pas nous conduire à mourir guéri. Le fétichisme budgétaire ne peut pas avoir pour conséquence le sacrifice de nos services publics. Cette semaine, une femme de 20 ans est morte aux urgences à Longjumeau, dans un service qui connaît un surplus d'activité et qui n'a pas les moyens de prendre en charge correctement ses patients. L'hôpital public est exsangue. Et si les consultations médicales chez le médecin de ville sont moins remboursées, les flux ne vont pas s'améliorer. L'école et l'accompagnement des enfants en situation de handicap ne peuvent pas davantage être étouffés. Nos policiers, nos gendarmes, nos magistrats doivent être renforcés pour faire face à une criminalité de mieux en mieux organisée avec les réseaux du narcotrafic. Nos collectivités locales, qui réalisent 75% de l'investissement public, soutiennent l'activité économique. Elles ne peuvent devenir la variable d'ajustement. Bon, ok, ils demandent plus de budget pour les services publics. Si vous parvenez à un accord, vous ne voterez pas la motion de censure. Exactement. Ça, c'est le principe d'un accord. Est-ce que vous êtes prêt à voter le budget ? Voter le budget, c'est entrer dans la majorité. Nous demeurons dans l'opposition tout en étant ouverts au compromis, parce que la politique du pire peut conduire le pays à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. C'est ce qui a motivé en 1936 le Front populaire et en 2024 le nouveau Front populaire. Cet accord de non-censure vaut-il pour tout le temps où François Bayrou restera à Matignon ? Nous avions proposé un accord de non-censure sur l'ensemble de la législature qui supposait un changement total de cap, l'abandon de l'usage du 49-3 et le respect des électeurs qui ont rejeté puissamment la perspective d'un gouvernement Le Pen-Bardella en juillet. Le gouvernement n'a pas souhaité y donner suite. Nous discuterons donc tout au long de la législature des projets présentés. Nous le ferons dans le même état d'esprit que pour le budget. Nous savons que nous n'avons pas de majorité absolue, tout comme le gouvernement doit reconnaître que la réciproque est vraie. Cela suppose que chacun en prenne la mesure et renvoie les grands désaccords au grand débat qui aurait lieu en 2027 et qui redéfinira l'orientation du pays. Mais chaque fois que le gouvernement lorgnera du côté des idées de l'extrême droite, il nous trouvera face à lui, sans aucune réserve. J'ai noté avec satisfaction que la relance de la guerre du voile tentée la semaine dernière par Bruno Retailleau a reçu une fin de non-recevoir. Ok. Vous n'excluez pas de déposer une motion de censure à l'avenir si nécessaire ? T'es qui le petit chien ? C'est le petit chien d'Olivier Faure ou c'est... Bon. Vous n'excluez pas de déposer une motion de censure à l'avenir si nécessaire ? Tant que le gouvernement ne renoncera pas au 49-3, il n'y a aucune raison de renoncer à quoi que ce soit, c'est le principe de la dissuasion. Oui, tu me diras. Si tu n'utilises pas l'arme atomique, j'utilise pas l'arme atomique non plus. Pourquoi avoir changé d'approche entre Barnier et Bayrou ? Michel Barnier n'a jamais ouvert de négociation. Il a laissé le débat parlementaire glisser et n'a négocié que sur sa survie avec l'extrême droite.
il en a payé le prix fort. Et François Bayrou, désormais, à François Bayrou, désormais, de choisir entre une négociation exigeante avec la gauche et les écologistes et la mise sous tutelle par Marine Le Pen. Gouverner, c'est choisir, disait Pierre Mendès France. Peut-on être dans l'opposition sans censurer le budget ? Mélenchon vous accuse de passer au soutien critique. La logique de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas l'opposition, c'est la démission du chef de l'État. En attendant ce dénouement pour lequel personne n'a de prise, cette attitude du tout ou rien conduit surtout à rien. Les insoumis sont obsédés depuis septembre par la seule élection qui les passionne, l'élection présidentielle. Ils ont déjà annoncé qu'ils avaient leur candidat, leur programme, et déjà lancé la collecte des parrainages pour Jean-Luc Mélenchon. Eux vous reprochent de vous compromettre. Que leur répondez-vous ? Les Français que je rencontre ont très bien compris ce que nous tentons. Ils voient bien que nous ne demandons rien pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas de poste. Nous voulons arracher des concessions pour les Français qui, sans nous, ne verraient pas le jour. Le NFP est-il mort ? Le NFP est né dans la lutte inaltérable contre l'extrême droite. Je demeure partisan du rassemblement de la gauche et des écologistes face à cette menace. Ce qui se joue maintenant est proprement historique et suppose un peu de hauteur de vue. Bon. Pas beaucoup d'éléments concrets dans cette interview d'Olivier Faure qui explique sa position de négociateur et justifie pourquoi il le fait, mais il ne donne pas beaucoup à manger sur le contenu des discussions et ce sur quoi ils vont atterrir. Ce sur quoi ils vont atterrir, on l'aura demain dans le discours de politique générale de François Bayrou. Arracher des concessions, c'est augmenter la dépense publique et les impôts. Oui, c'est ça. tu peux le résumer à ça, oui. Enfin, c'est la gauche, quoi. Pourquoi Olivier Faure fait une distinction entre gauche et écologiste ? Ça, c'est les écologistes qui font ça. Quand on dit gauche, les écologistes, ils disent « et les écologistes ». Voilà. C'est pour ça qu'il y a toujours écrit écologiste dans les négociations. Gauche et les écologistes. Perso, je fais une distinction entre gauche et PS. Oh, mais ça, tu peux, le PS s'en fout. C'est quand le congrès du PS, est-ce que Faure va prendre le parti ? Va perdre le parti ? Alors, la question de savoir s'il y aura un congrès du PS en 2025 dépend beaucoup de ce qui va se passer en 2025. C'est un peu nul comme phrase, mais tu vois ce que je veux dire. S'il y a des élections législatives, c'est pas le moment de faire un congrès. S'il y a une élection présidentielle, c'est pas le moment de faire un congrès. Les socialistes feront un congrès quand ils seront prêts à faire un congrès. S'il y a un congrès en 2025, ce serait plutôt à la fin de l'année 2025. Est-ce que Olivier Faure est en mesure de remporter ce congrès ? Moi, je pense que oui. Autant l'été dernier, je disais que c'était pas sûr, parce qu'Olivier Faure, il est face à une opposition en interne au Parti Socialiste, de gens qui lui reprochent d'être dans la roue de Jean-Luc Mélenchon, de trop dépendre de Jean-Luc Mélenchon, etc. À partir du moment où le PS reprend l'initiative à gauche en acceptant d'aller négocier avec François Bayrou, en tentant d'arracher des trucs, etc., c'est dur pour son opposition interne de lui reprocher ça, puisqu'il lui reprochait avant de pas le faire. Donc, à mon avis, aujourd'hui, Olivier Faure est assez assuré de garder le parti, je pense. Comme tous les congrès du PS, ça va gueuler, ça va monter, ça va, évidemment, dans les derniers jours, ça va hurler, on va proposer d'autres personnes et tout machin, puis à la fin, ils vont trouver un accord. Donc voilà. Voilà où on en est. Ça n'a pas fonctionné en 1920. Ah non, en 1920, la question était autrement plus compliquée. Ça se résolvait pas par une négo et un compromis, non. Tu vois pas un retour de François Hollande ? En l'état actuel des choses, j'ai du mal à y croire. François Hollande, il n'est même pas au bureau national.
Il va peut-être essayer. Ça m'étonnerait pas de lui. François Hollande essaye. Au demeurant, il a le droit d'essayer. Hein. Est-ce que le Parti Socialiste de 2025 a envie du retour de François Hollande à sa tête? Je sais pas. Peut-être parmi certains caciques du parti, comme d'habitude. Hein, le Parti Socialiste, c'est un parti dans lequel il y a beaucoup de notables, d'élus, d'anciens, tout ça, machin. Mais est-ce que les militants socialistes aujourd'hui, ils n'ont pas envie de passer à autre chose? Je sais pas. Ceux qui soutenaient Hollande à l'époque, ils sont pas passés macronistes? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Le PS a plutôt gardé. Parmi les électeurs, si. Il y a une partie des électeurs qui ont quitté le Parti Socialiste pour voter pour Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. C'est d'ailleurs le pari de Raphaël Glucksmann, c'est ça, c'est de récupérer l'électorat macroniste qui a le cœur à gauche. Faire revivre la social-démocratie et essayer de recréer un mouvement autour d'une posture de centre-gauche. Le PS se tape une réputation de traître aussi. Mais auprès de qui? Enfin, faut pas croire que le Parti Socialiste en a quoi que ce soit à foutre de l'opinion qu'ont les insoumis sur eux. Hein. C'est pas leur cœur de cible. En même temps, faut peut-être arrêter de trahir aussi. Mais tu sais, le PS, ils ont pas d'allégeance à la France insoumise, hein, donc le nouveau Front populaire, c'est un accord entre quatre partis politiques qui se sont mis d'accord sur un programme commun et sur des candidats dans les circonscriptions. À aucun moment, il a été écrit dans le document que les partis perdaient leur autonomie. Donc c'est pour ça que l'avenir du Parti Socialiste se joue pas particulièrement du côté de l'opinion qu'en ont les insoumis. Ça, c'est pas vraiment un truc que regardent les socialistes. Hein. Le PS n'est pas le vassal de LFI. Non, le PS n'est pas le vassal de LFI. Contrairement à ce que raconte Manuel Valls, enfin tous les macronistes hein, d'ailleurs, qui accusent Olivier Faure d'être un toutou de Jean-Luc Mélenchon... un perroquet de Jean-Luc Mélenchon, un vassal, etc., machin. Donc c'est pour ça que les insoumis qui disent que le PS... trahit le nouveau Front populaire en négociant avec Bayrou ne font qu'aller dans le sens de ce que dit Manuel Valls quand il dit que le PS est un toutou qui doit rentrer à la niche dès qu'on le siffle et qu'on le traite de traître. On peut encore dire bonne année. Le protocole dit que c'est trop tard. Bonne année à toi aussi, map assistante. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Il y a aussi la personnalité d'Éric Lombard qui joue dans ces négociations. Alors, on n'a pas beaucoup parlé au moment du remaniement. Éric Lombard, je vous avais dit que c'est l'ancien
patron de la Caisse des dépôts et consignations, qui jouent un rôle important d'investissement, hein, notamment dans l'agriculture, dans le logement social, dans certaines caisses de retraite aussi d'ailleurs. Mais Éric Lombard, on n'en a pas beaucoup parlé, et il est présenté comme un mec venant de la gauche. Alors est-ce que ça aide les discussions avec Olivier Faure? Je ne suis pas sûr. Hop. Éric Lombard, docteur techno et mister politique, un portrait dans le Figaro de Bertil Bayart. Le ministre de l'économie est la cheville ouvrière de la négociation menée avec les partis de gauche. Mais il assure au Figaro ne pas vouloir d'impôts supplémentaires. Ah. On saura mardi, jour de la déclaration de politique générale du Premier ministre François Bayrou, si Éric Lombard est effectivement, comme le décrit un patron du CAC 40, un grand tacticien ou bien un grand naïf. Depuis sa nomination à la tête du ministère de l'économie et des finances, l'ancien patron de la Caisse des dépôts a été la cheville ouvrière de la négociation engagée avec les partis politiques, surtout avec ceux de la gauche, hors insoumis, pour les convaincre de ne pas censurer le gouvernement. Depuis la première minute et probablement jusqu'à la dernière, il n'aura jamais été sûr du tout d'y arriver. Mais il y aura mis beaucoup d'ardeur. Pour Éric Lombard, c'est une démarche qui vient de loin. Le nouveau patron de Bercy s'était engagé dans sa jeunesse derrière Michel Rocard et a travaillé au cabinet de Michel Sapin en 91-92 avant de basculer dans le privé chez BNP Paribas et chez Generali. En 2007, il avait cofondé avec son ami Bernard Spitz le think tank Les Gracq dans l'espoir de participer. De participer au retour de la gauche, comme il le raconte dans son livre Au cœur de la finance utile, en jetant un pont entre le candidat socialiste Ségolène Royal et le centriste François Bayrou. 18 ans plus tard, il est ministre du second, qu'il connaissait peu. Le Parti socialiste, lui, est à peine reconnaissable, arrimé au nouveau Front populaire, loin, très loin de la deuxième gauche. Alors la deuxième gauche, c'est le nom qu'on a donné, notamment aux partisans du rocardisme. C'était une gauche c'était une partie de la gauche qui a été au pouvoir à partir de 88, qui était en faveur du marché libre, du marché libre, du virage néolibéral des années 80, et qui proposait une voie proche de la social-démocratie allemande, si vous voulez. On n'est pas très très loin de ça, quoi. Donc c'était ça, c'était les rocardiens, c'était plus tard, c'était devenu les strauss-kahniens, par exemple. Emmanuel Macron, quand il était proche du Parti Socialiste, était plutôt connu pour être proche de la deuxième gauche. Éric Lombard sera-t-il celui qui permettra la rupture entre le PS, les écologistes, le PCF et Jean-Luc Mélenchon? Ce n'est pas moi qui suis en train de casser le NFP, ce sont les partis qui se décrochent de LFI, dit-il. Il salue le rôle de son ami Olivier Faure. Il a pris des positions fortes en ce sens avant même que François Bayrou ne soit nommé, c'était courageux. Mercredi dernier, dans la soirée, les trois partis ont voulu discuter ensemble et non plus séparément avec le ministre et son homologue des comptes publics, Amélie de Montchalin. Un buffet commun est convenu, un petit événement politique, convient-on à Bercy ? J'ai toujours maintenu des liens avec le Parti Socialiste, explique Éric Lombard. Il s'est en fait attelé à faire travailler la poutre entre le centre et la gauche dès cet été. Le président de la République m'avait demandé mon avis, avec cette formule que chacun lui connaît, comment tu vois les choses. Ce que je voyais, c'est qu'une partie de la solution se trouvait à gauche. Avec son accord, j'avais donc contacté les partis de gauche pour discuter de leurs priorités, des points de synthèse possibles. Ces échanges sont devenus des négociations intensives. Bercy est ainsi devenu, l'espace de quelques jours, le centre de la vie politique française, alors que la nomination d'Éric Lombard avait été interprétée comme celle d'un techno. C'était aussi une curiosité. Dans l'histoire entre la cohabitation, souvent aigre-douce, entre le ministère de l'économie et la Caisse des dépôts, on passe plus souvent du premier au second que l'inverse. Mais à 76 ans, le non-énarque, qui est diplômé d'HEC, qui a fait 30 ans dans le privé, semble comme un poisson dans l'eau à la tête de ce ministère qui lui a fait si bon accueil. Ses débuts ont été les plus politiques à ce poste, avec une ambition. Ce qui me rendrait le plus fier, c'est que nous prouvions qu'une autre façon de fonctionner, une démarche plus ouverte et plus coopérative, comme le président l'a voulu, peuvent fonctionner. Ce sera un grand progrès. François Bayrou est à la manœuvre pour cela. C'est après tout dans les périodes particulières qu'on fait des choses particulières.
Bon, d'accord. Le financier Eric Lombard a une attitude de banquier central. Si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé, disait l'Américain Alan Greenspan. Le dialogue a créé de la confusion. Dès l'étrange passation de pouvoir dans la soirée du 23 décembre, le nouveau ministre, silhouette dégringandée et minostère, avait plus parlé de justice fiscale et d'urgence sociale que de rigueur comptable et de désendettement. Oh merde ! Oh, on a mis un mec de gauche au ministère de l'économie et des finances, on s'y attendait pas. Amplifié par les déclarations des socialistes, des communistes et des écologistes reçus chaque jour ou presque, il a régné comme une gauche d'atmosphère sur Bercy. L'éventail très large des sujets mis sur la table crée de l'anxiété, convient un proche de l'exécutif. « Est-on toujours dans le cadre de la politique de l'offre ?» s'interroge un macroniste. « Je parle plus aux macronistes et aux LR qu'aux autres. Je vérifie chaque fois qu'ils sont toujours à bord », assure Éric Lombard. Éric Lombard est trop à gauche. Ça, il va falloir que vous le gardiez en tête. Éric Lombard est trop à gauche pour une bonne partie de la Macronie et de la droite. Il parle de justice fiscale et d'urgence sociale. Il discute et il négocie avec les partis de gauche. Ça commence à grincer des dents. L'objectif de déficit pour le budget 2025 a été relâché. 5,5% maximum contre 5% affiché par Michel Barnier. C'était une soupape pour la discussion, pas une invitation au laxisme, promet le ministre. Ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent, précise-t-il. Il peut réussir, commente un patron qui le connaît bien. Il sait compter et il sait écouter et trouver des compromis. Éric Lombard connaît les effets de signaux pour les investisseurs et les marchés, se rassure un macroniste. Vendredi, le ministre a partagé le déjeuner organisé autour d'Emmanuel Macron avec les grands patrons qui iront au forum de Davos. Je leur ai demandé de rassurer leurs interlocuteurs. Nous serons sérieux sur les comptes de la France. Est-ce qu'il joue pas un peu avec le feu, Éric Lombard ? À dire des trucs de gauche aux gens de gauche et à dire des trucs de droite aux gens de droite pour essayer de satisfaire tout le monde et au final de satisfaire personne. Peut-être un peu risqué, hein ? Malgré le bruit ambiant, il ne serait donc question ni de choc fiscal, ni de festival des dépenses. Avec Amélie Montchalin, nous avons un projet de réduction rigoureuse de la dépense publique. Amélie Montchalin, c'est la ministre des Comptes publics. Cet objectif est en fait porté par de nombreux partis. Évidemment, ils ne sont pas très disserts en public sur le sujet des économies de dépenses. Cela ne veut pas dire que nous n'en avons pas parlé, bien au contraire. Côté impôts, il est temps aussi de resserrer le champ des possibles. Nous ne voulons pas d'impôts supplémentaires par rapport à l'épure du projet de la loi de finances existante. Cette maison est pleine de rapports de qualité et convaincants qui expliquent qu'il y a déjà trop d'impôts en France, et nous ne voulons pas remettre en cause l'attractivité économique du pays. Et ajoute-t-il, il n'y aura pas de retour d'un impôt sur la fortune ou le patrimoine type LSF. ISF, pardon. Idem pour le chantier des retraites. Quelle que soit la forme du futur projet, ma responsabilité est d'être le garant d'une règle absolue. Le déficit du système ne doit pas se dégrader. La solution ne passe pas par une hausse des cotisations. J'ai déjà dit non. Je refuse une augmentation des charges des entreprises. Les retraites pèsent déjà 14% du PIB. Il faut travailler à l'intérieur de ces 14%. Et bien ça veut dire des mesures d'âge. Enfin, pardon, mais il y a un moment... On touche à rien, on touche à rien, il ne reste plus qu'un seul levier, c'est l'âge légal de départ à la retraite, quoi. Non, c'est bien parce que Éric Lombard, il est très précis. Il est très précis, il cite des chiffres et des exemples quand il s'agit de rassurer la droite sur le fait qu'il ne va pas faire des trucs de gauche. Par contre, quand il s'agit de dire des trucs de gauche en rassurant la gauche en disant qu'il ne va pas faire des trucs de droite, là, il n'est pas très précis. Il dit plutôt des généralités. Genre, oh là là, dis donc, les salaires, ils sont un peu bas. Les services publics, c'est important. Non, mais... Bon, d'accord. Comme le gouvernement précédent... Après, attention, je suis en train de lire un article du Figaro. Donc, Éric Lombard, quand il les a eu au téléphone, il a rassuré le Figaro. Voilà. Donc, il a parlé d'endettement, il a parlé de PIB, il a parlé de niveau de retraite, enfin, charge des entreprises et tout. Comme le gouvernement précédent qui y a échoué, Éric Lombard souhaite mettre au plus vite l'exercice budgétaire derrière lui. On se projette au-delà. Dès le mois de mars, il faut engager le travail sur le budget 2026 qui doit marquer de vraies transformations et traduire une trajectoire d'atterrissage de nos finances publiques. Faire le pari sur le sujet des retraites, dont la discussion sera renvoyée aux partenaires sociaux. Ah putain. qu'il en sortira un projet mieux compris. Il est temps aussi pour le ministre de se consacrer à sa priorité, défendre l'industrie française. La fragilité de la situation rend le propos optimiste. Si le 14 janvier, nous entendons à la tribune des commentaires positifs de ceux qui ne voulaient pas de nous, et si le 16 janvier, la censure qui ne manquera pas d'être déposée par LFI n'est pas votée, cela nous donnera de la force. Le compte à rebours est enclenché. Éric Lombard, donc, continue à négocier avec la gauche sur la réforme des retraites, mais par contre, il n'est pas très précis quand il s'agit des mesures précises, justement, des mesures précises pour satisfaire la gauche. Est-ce que les votes du PS, ça suffit pour stopper la censure s'il y a les Républicains plus le RN plus LFI? Oui. Oui. Absolument. Il se mouille pas sur des trucs qui demanderont un arbitrage du Premier ministre. C'est pas non plus absurde qu'il se couvre. Oui, non, mais t'as raison, encore une fois. Je veux dire, c'est une interview, enfin, c'est des propos rapportés d'un ministre de l'économie en exercice qui est en pleine négociation pour essayer d'éviter la censure. Pourquoi les LR alors qu'ils sont au gouvernement? Non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, les Républicains ne voteront pas la censure. Les Républicains ne voteront pas la censure. Ils taperont du poing sur la table. Ils menaceront de ne pas voter le budget. Ça, par contre, c'est possible. Six mois au macronisme pour intégrer qu'il faut négocier avec la gauche. Bah, au début, ils ont essayé avec Marine Le Pen, hein, je vous rappelle. Ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché, ça a tenu 3 mois. là, François Bayrou, à mon avis, François Bayrou, il est lucide. Il voit bien que ça ne sert à rien de courir après le RN, que de toute façon, tu ne peux rien obtenir. Les mecs sont irrationnels. Donc, ils vont te censurer au bout d'un moment sans crier gare. Donc, autant essayer de dealer un accord avec les socialistes. Il n'a pas tellement de choix, Bayrou. Ah non, il n'a pas beaucoup de choix, François Bayrou. Quand tu vois les tensions, je veux dire, quand tu vois que les macronistes et les républicains trouvent que Éric Lombard est trop à gauche, car si tu veux réussir à garder un attelage à peu près cohérent, et encore je suis gentil sur le à peu près, hein, par les temps qui courent, il faut savoir être un peu souple, Bayrou, il négocie avec les seuls avec lesquels il peut négocier. Et ça, les socialistes le savent très bien. Hein. C'est pour ça qu'ils font monter les enchères. C'est une négo. Pour toi, ça reste ou ça reste pas, ce gouvernement? Pour moi, ça reste à court terme. Ça reste à court terme. À long terme, on verra. Et les discussions sur le budget vont être compliquées. À quel point ils font monter les enchères, le PS? Sur la suspension de la réforme des retraites, en fait. Si le PS obtient du gouvernement une remise en cause de la réforme des retraites, qui est pourtant structurante de l'identité politique du macronisme, ils s'en prévaudront comme d'une victoire. En disant, on a réussi à faire plier le gouvernement, on a réussi à faire plier les macronistes, qui, après 2 ans à être obtus sur cette réforme, ont fini par reconnaître que c'était pas une bonne réforme et qu'on pouvait faire mieux. C'est quoi court terme jusqu'aux prochaines législatives en juin?
Ça me paraît complexe. Hein. Ça me paraît complexe parce qu'encore une fois, on a raison, et moi le premier, hein, de regarder la censure, est-ce que ça vote, est-ce que ça vote pas, etc. Y a aussi une autre réalité, c'est que si tu veux gouverner un pays, il faut voter des lois. Hein. François Bayrou, il n'a pas de majorité. Hein. Tu me diras, Michel Barnier, on n'avait pas beaucoup non plus. Hein. C'est pour le retour de la retraite à points, pas sûr. Ouais, mais en vrai, la retraite à points, peu importe. Enfin, c'est toujours pareil. Moi, je me fous de la manière qu'on a de compter les points ou les trimestres. La question, c'est concrètement ce que ça change pour les gens et les mesures d'âge. Si tu fais une retraite à points avec un âge légal de départ à la retraite à 67 ans, par contre, si tu fais un système à points avec un départ effectif à 60 ans, c'est pas la même histoire. Le problème, c'est la deadline de juin pour les élections qui empêche tout reset et incite pas grand monde au compromis jusque-là. Je suis d'accord avec toi. Non, non, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que y a des partis qui jouent la présidentielle. Ils cherchent, ils veulent la présidentielle. C'est notamment le RN et la France Insoumise. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sourds aux autres élections, bien au contraire, mais c'est leur stratégie. Les autres, présidentielle ou pas présidentielle, ils voient arriver gros comme une maison la dissolution. Et donc se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on veut raconter comme récit aux électeurs pour gagner des voix. Si on se retrouve à être partie prenante de la fin du macronisme, c'est pas très engageant. Est-ce qu'il y a alliance, est-ce qu'il n'y a pas alliance? D'où le fait, et c'est les gens dans le chat qui le faisaient remarquer à juste titre, que si tu fais la proportionnelle, ça change un peu la donne. La proportionnelle, ça change un peu la donne. Sachant que le gouvernement semble prévoir des économies supplémentaires, est-ce que c'est vraiment une victoire ou pas plutôt un cas où tu mets ma poche à gauche que tu m'as pris dans ma poche à droite? Je suis d'accord avec toi, il faut regarder sur où est-ce qu'elles sont faites les économies. C'est toujours pareil, tu les fais où les économies? Si tu fais des économies en supprimant le SNU, moi ça me va. Hein. D'accord, ouais, c'est ok. Si tu fais des économies sur les aides aux entreprises en créant de la conditionnalité, ouais, pourquoi pas? Moi, je veux bien. Si tu fais des économies sur les dépenses de l'État, mais que tu rebalances tout aux collectivités locales, sert pas à grand-chose, tu vois. Le CICE, ça n'existe plus, le CICE. Vu la composition de l'Assemblée nationale actuelle, est-ce que la proportionnelle va changer quelque chose? Ça dépendra des Français avec leurs petits bulletins dans les grosses boîtes. Comme d'hab. J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que le problème est toujours le même, c'est que il faut faire attention quand on tire des traits sur la comète entre deux élections qui ne sont pas faites dans le même scrutin. Et qui ne sont pas faites pour les mêmes raisons. Il a été supprimé quand le CICE? Il a été supprimé 2 ans après son adoption. Il a été transformé en baisse de charge. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, non, j'étais en train de dire que Qu'est-ce que donnerait une élection législative à la proportionnelle? Bon, tu as plusieurs manières. Soit tu regardes les dernières élections au scrutin proportionnel qu'on a eues en France, c'est les européennes. Donc tu peux prendre les résultats des européennes, les calquer sur une assemblée et voir ce que ça donne. Problème, c'est que ça, c'est faire dire à des élections ce qu'elles n'étaient pas à l'époque. C'était des élections européennes. Déjà, il y a eu moins de participation, et en plus, il y a eu des votes qui correspondaient aussi à une question européenne. Donc, il faut se méfier un peu de cette manière d'extrapoler les élections les unes sur les autres. L'autre solution, c'est que tu peux dire, OK, alors à ce moment-là, on prend les résultats des législatives et on regarde ce que ça donne en proportionnel. Bah là, pareil, c'est un peu une arnaque intellectuelle de faire ça. T'as pas vraiment le droit, statistiquement, de transformer une élection au scrutin majoritaire, de compter les bulletins de la même manière en disant, et qu'est-ce que ça donnerait si? Parce qu'en fait, les types d'élections impliquent les comportements d'acteurs. Donc, tu peux pas faire se comporter de la même manière les électeurs en fonction d'une élection si tu changes le mode de scrutin. En l'occurrence, en plus, les élections législatives, il y avait des alliances. Il y avait des alliances. Il y avait une alliance à gauche et il y avait le socle commun, enfin pas le socle commun, mais Ensemble, qui est aussi une alliance. Si on fait un scrutin demain à la proportionnelle, je vois pas pourquoi le NFP continuerait à exister, sauf proportionnelle avec prime majoritaire, on en rediscutera. Et si on refait. Et si on fait des proportionnelles. Et si on fait une proportionnelle. Enfin, ouais. Et si les partis de gauche y vont diviser, c'est dur de savoir où vont aller les bulletins de gauche, quoi. Élection à la proportionnelle, ça se passe comment? Ben, c'est comme les élections européennes, c'est-à-dire qu'on vote pour des listes nationales, dans le cas d'une proportionnelle intégrale. On va mettre de côté les autres modèles. On vote pour des listes. Et les listes obtiennent le nombre de sièges à l'Assemblée qui correspond au pourcentage qu'ils ont obtenu, à la proportion du nombre de voix. C'est pour ça qu'on appelle ça une proportionnelle. T'as fait 20%, t'as 20% des sièges. Donc, comment on arrondit à la plus forte moyenne? Donc plus du tout d'ancrage local des députés. C'est pour ça que je vous ai dit que là, ce que je vous ai expliqué, c'est la proportionnelle intégrale. La proportionnelle intégrale, c'est la proportionnelle qu'on explique aux enfants à l'école, parce que c'est la plus simple à expliquer. Le truc, c'est qu'elle a plein de défauts, et que donc, en réalité, quand on fait une élection proportionnelle, en général, on essaye de contrecarrer ces défauts, notamment le manque de représentation territoriale. Donc c'est pour ça qu'on fait des scrutins proportionnels par département ou par région. Les deux sont possibles. Ça, c'est déjà existé d'ailleurs. La proportionnelle par région, c'était les élections européennes en 2019, si je dis pas de conneries. Voilà. La proportionnelle ne risque-t-elle pas de faire du RN un parti très puissant, puisque premier en voix? Bah, je te répondrais qu'il est déjà très puissant, puisque premier en voix. Le RN, c'est le premier parti de France en voix. Ils ont fait 30% aux élections européennes, 33% aux élections européennes. Bon, ils n'ont pas obtenu 33% des sièges aux législatives suivantes parce que c'était pas un scrutin proportionnel. Mais si le RN avait 33% des sièges à l'Assemblée, ce serait pas très différent de ce qu'ils ont aujourd'hui, hein.
Ouais, ils auraient 60, 70 sièges de plus qu'aujourd'hui. Ah non, il pèse lourd. Hein. Il pèse lourd, le RN. Donc oui, bien sûr, un scrutin à la proportionnelle, on aurait le vrai poids des partis représentés à l'Assemblée. Le RN aurait probablement un tiers des sièges de l'Assemblée. Et les deux tiers suivants seraient répartis entre la droite, les macronistes, et la gauche, les gauches. C'est quoi la démarche pour changer le mode de scrutin législatif ou présidentiel? Pour modifier le mode de scrutin législatif, c'est une loi. Donc ça peut être voté à l'Assemblée. Et présidentiel, c'est la Constitution. Donc il faut changer la Constitution. Si tu veux changer le mode d'élection du président de la République, il faut réformer la Constitution. Est-ce que la proportionnelle permettrait au NPA d'avoir un groupe? Ça dépend si tu fais un barème à l'entrée. Alors en fait, ça dépend de deux choses. Ça dépend de si tu fais un barème à l'entrée. Généralement, quand on fait des élections proportionnelles, on crée un barème minimum. Ne sont représentées que les listes qui font plus de 5% des voix. En général, c'est à 5% qu'on met le barème. C'est le cas aux législatives, c'est le cas aux régionales et aux européennes aussi d'ailleurs. Donc dans ce cas-là, le NPA aurait zéro député. Et en admettant qu'on fasse aucun barème, le NPA pourrait avoir quelques sièges, mais est-ce que ce serait suffisant pour faire un groupe de députés? C'est pas sûr. C'est 10% au régional, le seuil? Au premier ou au second tour? C'est possible que ce soit 10% au premier? Le concept du NPA, c'est pas qu'ils ne veulent pas être élus, vraie question. Non. C'est plus compliqué que ça. Le NPA, ce sont des communistes révolutionnaires. Ce sont des gens qui veulent la révolution. Ils veulent la révolution. Et ils participent à tout ce qui peut aller dans le sens de la révolution, notamment aux mouvements sociaux. Le NPA est très présent dans les luttes sociales, dans les manifestations, etc. Le NPA participe également aux élections, mais sans faire de l'élection l'alpha et l'oméga de leur projet, de leur méthode, de leur but. Donc c'est pour ça que le NPA se présente aux élections avec un discours qui critique les élections. Non pas qui critique la démocratie dans l'absolu, mais qui critique le système politique dans son ensemble, qu'ils veulent changer. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils veulent passer. Moi, quand j'avais interviewé Philippe Poutou, il m'avait dit, moi, je veux pas gagner l'élection. C'est un peu particulier pour un candidat de dire ça, j'ai pas envie d'être élu. Mais il le disait parce qu'il avait derrière un argumentaire qui expliquait qu'il y a un problème avec cette élection, les gens qui veulent être élus, les gens qui font carrière en politique, nous on est contre, etc., etc. Tu vois? Donc évidemment qu'il y a une tension, on pourrait même dire une contradiction au sein du NPA à participer à des processus électoraux qu'il conteste par ailleurs. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, à l'extrême gauche, depuis plus d'un siècle, il y a des débats. Ben oui, les mecs sont pas tous d'accord les uns avec les autres, ils s'engueulent entre eux, il y en a qui reprochent à d'autres de participer aux élections. Le NPA se fait reprocher sa participation aux élections par d'autres gens d'extrême gauche, par exemple les anarchistes, qui eux, pour le coup, ne participent à aucune élection. Ils sont révolutionnaires, plus révolutionnaires que révolutionnaires, donc ils veulent surtout pas donner le change à un système qu'ils contestent par ailleurs. Si vous croyez que la gauche c'est bordélique, dites-vous que l'extrême gauche c'est encore pire. C'est un bordel. Oh, oh les courants. Oh les embrouilles. Et ça fait un siècle que ça dure. Hein. C'est assez spectaculaire. Et quand je dis un siècle, même plus que ça. La pureté militante les rend débiles. Non! Je vois ce que tu veux dire, mais. Non, c'est pas que des questions de pureté, c'est aussi des questions de pratique et de contenu idéologique et de pensée et de mise en application de son idée et de sa pensée. Il y a des communistes révolutionnaires qui considèrent que pour être alignés avec leurs idées, ils ne doivent pas participer aux élections. Ils doivent les contester, ils doivent les combattre. Il y a d'autres communistes révolutionnaires qui considèrent que pour le bien du communisme révolutionnaire, il faut aller aux élections pour porter la voix des communistes révolutionnaires. Bon, eh ben, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est pas grave. Ça ne les empêche pas de faire partie des mêmes luttes, ça ne les empêche pas de participer au même combat, de se retrouver dans un certain nombre de choses, etc. Bon, ben voilà. LO et la LCR faisaient 10% en 2002. Bien sûr, l'extrême-gauche faisait 10% en 2002. Un électeur sur 10 votait extrême-gauche en 2002. Mais c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la France insoumise. Donc comment tu faisais pour te plaindre du gouvernement socialiste, dans lequel il y avait un certain Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, qui avait fait une politique de droite? Comment tu faisais à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, t'as un bulletin LFI. Bon, ok, mais à l'époque, t'avais pas de bulletin LFI. Donc si tu voulais porter la critique contre ce gouvernement de fausse gauche qui est en réalité de droite, eh ben tu prenais un bulletin LCR, pardon, à l'époque, ça s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire ou Lutte ouvrière. Et c'est comme ça qu'ils ont fait 10%. C'était la gauche déçue de Jospin. Pourquoi pas le PC à cette époque? Parce que le PC, il était au gouvernement. Le PC, il était au gouvernement. Enfin, ils l'ont quitté au bout d'un moment, mais le Jospin, je vous rappelle que Lionel Jospin a été au pouvoir en France entre 1997 et 2002, et il était à la tête d'un gouvernement dit de gauche plurielle. Dans lequel il y avait les écologistes, les communistes et les socialistes. Il y a clippé, Jean Massy a dit que Jospin était de droite. Ah non, j'ai dit que le gouvernement, le seul gouvernement auquel Jean-Luc Mélenchon a participé, c'est le gouvernement qui a le plus privatisé d'entreprises de toute l'histoire de la Ve République. Mais tu peux clipper si tu veux, pas de problème. Quelle est la différence entre le communisme et l'extrême gauche? Ah. Alors. Compliqué. Les socialistes et les communistes ont une histoire faite d'amour et de haine, d'accord et de désaccord, de brouille politique et de retrouvailles gouvernementales. Mais disons pour faire simple que à partir des années 70, à partir des années 60, le Parti communiste a un peu mis de côté son côté révolutionnaire pour négocier et trouver des accords avec les cousins socialistes. C'est ce qui a donné naissance au programme commun dans les années 70, dès les années 60 en réalité, et à la victoire de François Mitterrand en 1981. En 1981, au gouvernement, vous aviez des socialistes et des communistes ensemble. Ce que l'extrême droite appelait les socialo-communistes, notamment Jean-Marie Le Pen, qui a beaucoup utilisé cette expression, les socialo-communistes. Socialo-communistes, c'était les socialistes et les communistes, main dans la main. À partir de là, le Parti communiste a, à plusieurs reprises, participé au pouvoir avec les socialistes. Le Parti communiste s'est donc retrouvé de facto un peu mouillé, enfin mouillé non, pas du tout, simplement responsable de la politique qui était menée. Mais il y avait des communistes qui n'étaient pas d'accord avec cette politique menée par le PCF. Des communistes qui voulaient rester sur un truc plus révolutionnaire, pas gestionnaire. On n'est pas là pour prendre des ministères, dans une 5ème République. Non. Nous, on est là pour faire la révolution prolétarienne. C'est ça, notre projet. Donc, on ne va pas aller participer avec le PCF et le PS à la gestion du pouvoir, avec des ministères qui font des réformes. Non. On est là pour la révolution. Ces gens-là étaient des communistes en rupture avec le Parti communiste. Et c'est ça, la gauche révolutionnaire. C'est ça, le communisme révolutionnaire. Pourquoi j'utilise toujours le mot révolutionnaire ? C'est pour le distinguer du communisme au sens Parti communiste français, qui, lui, est devenu, avec le temps, moins révolutionnaire, moins idéaliste et un peu plus pragmatique avec tout ce que ça a de droite. Réformiste, si tu veux. Oui, réformiste, qui est un mot... Le mot réformiste est un mot qui a beaucoup été utilisé par le PCF pour dénoncer les socialistes, jugés réformistes dans le très mauvais sens du terme, à l'encontre de la vraie révolution prolétarienne qui, elle, est la seule vraie gauche pure et parfaite à 100%. Le PCF est devenu réformiste plus tard dans son histoire. C'est pour ça qu'à côté du PCF, il y a d'autres partis communistes. Le nouveau parti anticapitaliste, lutte ouvrière, révolution permanente sont des partis communistes, révolutionnaires, opposé au Parti communiste français. La gauche pure, ça parle comme Voldemort dans le coin. L'anticapitalisme, c'est l'extrême gauche. C'est pas à moi de distribuer des Marocains de droite, de gauche, d'extrême gauche, etc. Mais classiquement, y compris à gauche en France, on utilise le mot extrême gauche pour désigner le communisme révolutionnaire et tous ces mouvements anarchistes, syndicalistes révolutionnaires, anarcho-communistes, tous ces groupes-là, qu'ils soient des partis, des associations, etc., on appelle ça l'extrême gauche en France. Mais dedans, il n'y a pas le PCF. PCF n'est pas d'extrême gauche. PCF, il est de gauche avec les autres partis de la gauche. Voilà. Est-ce que l'anarchisme est une forme de communisme ? Comment te dire que ça fait un siècle et demi qu'ils s'engueulent sur cette question-là précisément ? Et que donc je ne vais pas y mettre un doigt de pied. Je te jure, je ne vais pas y mettre un doigt de pied. Non. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Ça discute. Ça papote. C'est, voilà. Lutte ouvrière et NPA, c'est tout. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Alors après, je ne connais pas la liste, hein, parce que pareil, j'ai des organisations d'extrême gauche, il y en a un paquet. Et j'utilise le mot organisation pour faire un grand sac dans lequel je mets les partis politiques qui présentent des candidats aux élections, les associations, les syndicats, tu dois avoir des médias, tu dois avoir des pages Facebook, je suis sûr. Voilà, il y a du monde, hein. Il y a plein d'organisations différentes, etc. Vous avez aussi peut-être entendu la notion de trotskisme. Parce que l'histoire que je vous ai racontée avec l'extrême gauche révolutionnaire qui se distingue du PCF en refusant le réformisme, s'est retrouvée très très liée aux thèses de Léon Trotsky, qui, comme vous le savez, était un critique du stalinisme et qui était... il est mort dans les années 50, mais il a repris le flambeau d'une théorisation du combat révolutionnaire dans la poursuite de la volonté léniniste, mais en se démarquant du stalinisme. Et Trotsky était très critique du stalinisme et de ce qu'était en train de devenir l'Union soviétique. Il l'accusait d'être bureaucrate, il l'accusait d'avoir volé la révolution, d'avoir créé un système autoritaire, machin, etc. Les thèses de Trotsky ont eu énormément de corps dans cette extrême gauche française, justement. Beaucoup de gens d'extrême gauche se revendiquaient du trotskisme sous forme de critique du PCF, parce que je vous rappelle quand même que le Parti communiste français a très 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 longtemps été dans la roue de Moscou. Genre vraiment Moscou, c'est-à-dire qu'ils prenaient leurs ordres de Moscou. C'était ça, la Troisième Internationale, etc. C'était un parti satellite d'une puissance qui s'appelait l'Union soviétique et qui avait son petit bureau en France, qui répétait comme un perroquet ce que disait Moscou. C'était Moscou. Comment tu faisais quand tu étais communiste révolutionnaire et que tu étais contre l'URSS? Tu te distinguais, et donc les trotskistes, on utilise encore le terme aujourd'hui pour parler de trotskisme à propos de l'extrême gauche, par opposition aux stalles, dans le petit jargon. Si un jour vous entendez parler des stalles, c'est une insulte trotskiste à l'encontre des communistes du PCF. Oui, la politique est pleine de petits jargons comme ça, très internes. Dans les petits milieux militants, on utilise des termes et tout. Donc les stalles, c'est le PCF. Parle-nous du pablisme et du lambertisme. Oh là, non. Non, mais vous savez que... Là, je fais de la vulgarisation. Hein. J'essaie de vous expliquer pour les gens un peu paumés qui entendent parler de ça pour la première fois de leur vie. Dites-vous bien que ce dont je suis en train de vous parler, il y a des gens qui ont consacré leur vie à l'étudier, qui ont écrit des livres, qui ont écrit des publications, des journaux, des trucs comme ça. Je suis en rien un spécialiste de l'histoire révolutionnaire française. De très très loin, je vous parle un petit peu de trucs comme ça, mais je ne fais que vous ouvrir un hublot sur un monde, les gars, assez extraordinaire. Ça paye bien d'étudier ça. C'est de niche, comme on dit dans le jeu vidéo. Il y a un lore. Hein, voilà, c'est des jeux vidéo de niche. Et il y a des gens qui en font leur vie. C'est qui les invités de Backseat jeudi pour savoir si je prends ma place? Backseat reprend le 23 janvier, première info. Et deuxième info, en général, vous avez le nom de l'invité politique après que toutes les places aient été vendues. Donc voilà. Pourquoi on parlait de ça? Ah oui, parce que quelqu'un m'avait posé la question de savoir, en cas de proportionnel, est-ce que le NPA aurait un siège au Parlement? Ce serait la première fois. Hein. Ce serait la première fois de l'histoire de France qu'on aurait un communiste révolutionnaire à l'Assemblée nationale. Si Philippe Poutou, par exemple, était élu député. Jusqu'à présent, depuis la Seconde Guerre mondiale, et même avant d'ailleurs, on n'avait que des communistes, PCF. Il n'y en a pas qui siègent avec LFI? Non, alors il y a des gens qui sont issus de la gauche révolutionnaire et qui plus tard dans leur vie ont changé et ont évolué vers d'autres partis politiques. Daniel Obono, si je ne dis pas de bêtises, elle vient du NPA, Daniel Obono. Elle a commencé au NPA. Pour parler des gens récents, si on revient en arrière... vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu mai 68 et que dans la foulée de mai 68, dans les années 70, etc., il y avait tout un tas de jeunes, des lycéens, des étudiants et tout, qui se sont ambiancés à l'époque dans des mouvements trotskistes, dans des mouvements révolutionnaires. Les jeunesses révolutionnaires, les maoïstes, etc., à l'époque, ça pullulait, hein. Il y avait plein de groupes étudiants comme ça, tous plus à gauche les uns que les autres, qui s'engueulaient et s'insultaient de réformistes les uns les autres, déjà à l'époque. Hein. Il y a plein de ces jeunes-là qui, à un moment, ont un peu abandonné leurs histoires de jeunesse, de révolution, tout ça, pour rentrer dans des partis un peu plus classiques et faire carrière. Voilà.
Jean-Luc Mélenchon a été trotskiste, bien sûr. Ah, Jean-Luc Mélenchon, il a surtout été mitterrandien. Hein. Il n'est pas si vieux que ça, Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas s'il a commencé comme jeune agitateur de fac. Mais il y en a eu plein, oui. Jospin aussi, bien sûr. Mélenchon, il a été lambertiste. Oui. Pas le seul, hein, ni le premier. Non, non, mais Cambadélis aussi. Hein. Enfin, c'est, voilà, il y en a plein. Hein. Qui ont été, dans leurs folles années, des communistes révolutionnaires et qui plus tard sont devenus social-démocrates. Voilà, c'est pas quelque chose de rare. Hein. Jospin était trotskiste, ouais, Jospin a été trotskiste, bien sûr. D'ailleurs, c'était marrant parce que Jospin, il était Premier ministre en 97. Et en 97, il y a des journalistes de droite, alors je sais pas si c'était pour le Figaro ou pour un autre journal, qui ont enquêté sur Jospin et qui ont révélé que Jospin avait été trotskiste dans sa jeunesse. Et du coup, il y a une question au gouvernement qui a été posée à Jospin. Et je me souviens de cet extrait, Jospin, un député de droite qui se lève, qui dit « Monsieur le Premier ministre, des journalistes ont révélé que dans votre passé, machin et tout. » Et Jospin, il se lève pour répondre à la question, tu vois, il prend le micro et en fait, Jospin, il se marre en fait en répondant à la question en disant « Bah ouais, genre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qui voulait quoi? Que je vous dise que quand j'étais lycéen, j'étais trotskiste? Ouais. Comme à peu près tous les députés socialistes assis sur ces bancs, ouais. Qu'est-ce que tu voulais? Dans les années 70, t'étais jeune, t'étais de gauche, t'étais trotskiste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un moment, Ouais. Le scoop de fou, ouais, c'est ça. Oui, bah oui. C'est toute une génération de jeunes comme ça qui aujourd'hui sont OPS. Et aujourd'hui, LFI rejette le qualificatif d'extrême gauche. Ouais, la France insoumise est accusée d'être d'extrême gauche, et j'utilise le mot accusée à dessein parce que c'est comme ça que le pensent ses détracteurs, qui jettent comme une opprobe l'étiquette extrême gauche à la figure de la France insoumise pour la placer dans le camp de l'infréquentable, de l'intolérable, pas sérieux, etc. machin. C'est une bataille sémantique comme on en a déjà vu dans l'histoire. Hein. C'est pas récent, quoi. LFI refuse d'être appelée d'extrême gauche parce qu'elle ne l'est pas. LFI ne considère pas être d'extrême gauche. Mais vous savez, comme je l'ai toujours expliqué, droite, gauche, centre, extrême gauche, extrême droite, ce sont des étiquettes, ce sont des ensembles qui relèvent davantage Merde. Un accord tacite. C'est quoi le... Putain, pourquoi j'ai pas le mot là? Je l'ai sur le bout des lèvres. Une convention, merci. Une convention. C'est une convention. On appelle gauche, droite, etc. Par convention, on utilise ce terme pour désigner les camps qui défendent, etc. machin. Le truc, c'est que les conventions, ça peut évoluer, hein. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur le Parti communiste, qui n'est pas d'extrême gauche, qui est de gauche, etc. Bon, bah, peut-être que dans les années 20, j'aurais eu un discours différent, tu vois, j'en sais rien, faut en discuter, tu vois. LFI est antidémocratique en interne et il n'y a pas de congrès. Oui, mais ça ne les qualifie pas directement d'extrême gauche. Comment te dire que la gauche peut pas vraiment prétendre être un exemple en termes de démocratie interne dans ces partis. Voilà. Comme l'REM. Oui, comme La République En Marche, comme le Rassemblement National. Alors, Rassemblement National, ils font des congrès. Ils font des congrès. C'est pas non plus la démocratie qui les étrangle. Mais voilà. L'extrême gauche en France s'est caractérisée par la volonté de renverser le pouvoir par la rue. LFI est réformiste, donc de gauche, mais pas extrême. CF, le Conseil constitutionnel. Ouais, mais encore une fois, moi, je ne suis pas tenu par les décisions du Conseil constitutionnel. Et ça aussi, on pourrait en discuter. Hein. Enfin, on a le droit d'en discuter. Hein. Et par ailleurs, l'extrême gauche est caractérisée par la volonté de renverser le pouvoir par la rue. Pas seulement. L'extrême gauche participe aussi aux élections. Tiens, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, mais je vous expliquais qu'à l'extrême gauche, il y avait des débats pour savoir faut-il participer aux élections ou pas. Pendant longtemps, il y a aussi eu un débat à l'extrême gauche, hein, on va pas se mentir, c'est faut-il prendre les armes ou pas. Ça a longtemps été un débat à l'extrême gauche. Faut-il tuer des gens? Et je dis ça parce qu'il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des organisations d'extrême gauche clandestines, comme Action Directe en France, par exemple. La bande Abadère en Allemagne, en Italie c'était la fraction Armée Rouge, je crois. Voilà, y a des gens d'extrême gauche qui ont dit la révolution, c'est ce genre de phrase un peu débile que tu répètes à l'envi, la révolution n'est pas un dîner de gala, nous la révolution on va la faire. Mais ils ont pris des fusils, ils ont mis des cartouches dedans et puis ils ont tué des gens. Bah ça, à gauche, à l'extrême gauche, ça a fait débat. Ça a fait débat. Est-ce qu'il faut soutenir la révolution, l'action violente? Ouais, les brigades rouges. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ouais, voilà, fameuse phrase d'assassin. Résumer les actions de l'extrême gauche à tuer des gens, c'est caricatural quand même. Ben justement, je suis en train de t'expliquer que non. Que justement, à l'extrême gauche, il y a eu des débats là-dessus pour savoir est-ce qu'on doit soutenir l'action violente. Est-ce que c'est des méthodes militantes qu'on accepte? Et voilà, et ben ça a débattu, ça a discuté, ça s'engueulait dans des publications spécialisées, machin, à l'extrême gauche, ça s'engueulait tribune contre tribune pour savoir si oui ou non il faut toute action, sous prétexte qu'elle se revendique révolutionnaire, est-elle bonne à soutenir? Voilà, ben ça c'est un débat éthique qui a traversé l'extrême gauche pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est assez réglé comme question. Enfin, y a plus vraiment en France de groupes d'extrême gauche qui utilisent la violence armée. Il y a des groupes qui utilisent la violence en manifestation, la violence de rue. Essentiellement contre les forces de l'ordre. Donc ça peut aussi faire débat d'ailleurs. Le système allemand est plus avancé, les partis politiques doivent avoir eux-mêmes une organisation démocratique en interne. En pratique, tous les partis allemands ont un fonctionnement démocratique. Si LFI ensemble et le RN étaient des partis allemands, ils seraient tous inconstitutionnels. Alors, oui, ce que tu dis est vrai. Tu noteras quand même que nos amis allemands ont une histoire lourde qui, c'est vrai, leur a fait prendre des décisions du point de vue de l'organisation interne de leur parti politique et de leur vie politique. Par exemple, effectivement, ce genre de règle qui fait que tu es obligé d'avoir une vie démocratique interne dans tes partis et tout. Moi, je suis français, gaulois réfractaire, je ne suis pas hyper favorable à ce que la loi impose aux partis un certain mode de fonctionnement. tout aussi critique que je puisse être de l'organisation de la France Insoumise en interne, mais ça, c'est leur problème. Justement, c'est leur problème. Voilà, c'est justement mon point. C'est que s'il y a un moment, les mecs, enfin, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous n'êtes pas obligés d'avoir un parti démocratique. Charge aux gens de préférer ou pas préférer la démocratie interne dans les partis. Mais je ne suis pas giga favorable à ce que la loi impose une certaine typologie de démocratie interne. Que la loi impose le vote, plutôt favorable ou pas ? Bah non, pas favorable. Les partis politiques sont des organisations privées. Au sens juridique du terme, ce sont des organisations de droit privé. Les partis politiques ont des obligations dès lors qu'ils veulent présenter des candidats. Ça, par contre, pour présenter des candidats, il y a des obligations fixées par la loi sur l'adresse, machin, l'âge, les trucs et tout ça, d'accord. Mais comment le parti s'organise en interne pour décider, machin, c'est pas à moi d'en discuter et je crois pas que ce soit à la loi de le faire. Les partis politiques ont des devoirs de respecter un certain nombre de règles budgétaires également. Dans le cadre des campagnes politiques, tout ça est encadré, etc. Je suis très favorable à l'encadrement du financement politique, du financement des campagnes, etc. Aucun problème. Par contre, si les partis politiques veulent s'organiser avec des comités locaux, avec des tirages au sort, avec des coprésidences, avec des fédérations, avec des motions, avec des congrès, avec des agora, avec des AG, ça, j'ai envie de dire... Je laisse les partis se démerder, hein. Ils ont le droit. Mais encore, après, c'est mon point de vue. Enfin, je veux dire, je n'hésitez pas à être en désaccord avec moi. Hein. Vous avez le droit de penser qu'au contraire, la loi doit imposer à tous les partis d'être démocratiques. Peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être, je sais pas. En plus, c'est mettre des bâtons dans les roues aux petits partis qui voudraient se lancer. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le côté. Enfin, je sais pas si ça c'est le bon exemple, mais je suis d'accord avec toi pour dire attention à ne pas fabriquer des lourdeurs qui empêchent des nouveaux partis d'émerger. Ça veut dire quoi, démocratique pour un parti ? Bah, tu vois, en plus, on pourrait ne pas être d'accord. Justement, on pourrait ne pas être d'accord. Moi, je pourrais considérer qu'un parti, il est démocratique à partir du moment où il fait voter ses adhérents sur ses orientations et sur ses dirigeants et sur ses candidats. Mais d'autres personnes pourraient me dire, bah, je suis pas d'accord, moi, je considère que mon parti est démocratique parce que le leader de mon parti... C'est lui que le peuple veut. Là, je peux rien dire. Oui, si c'est ta conception de la démocratie, qu'est-ce que je te dise ? On est, oui, ok, d'accord, oui. Est-ce qu'il faudrait plus de partis politiques ? Je sais plus. Alors. Il y avait un comptage qui avait été fait, je ne sais plus si c'est sur le site du Conseil Constitutionnel ou sur machin, sur le nombre de partis politiques en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de partis politiques qui existent en France, mais de mémoire, j'ai le chiffre de 300 en tête. Il y a plus de 300 organisations en France qui ont le statut de parti politique. Nous, on connaît les 7-8 principaux, là, ceux dont on parle toute la journée à l'Assemblée et tout machin. Mais en fait, des partis, il y en a plein, notamment des partis locaux. Énormément de partis locaux dans les régions. Outre-mer, il y a plein de partis. Et puis, il y a des micro-partis. Enfin, il y a des partis dont vous et moi, on pourrait se moquer en se disant « Ah, c'est des petits clubs ridicules et tout », mais qui on est pour juger ce que les mecs font dans le parti ? Si t'as un parti qui a 3 adhérents, enfin, t'as le droit, parce que si tu veux que je te dise, crée ton parti, vas-y, crée un site internet, une page Facebook, défends tes idées, fais des programmes, machin, vas-y, enfin, juste, t'as le droit. C'est facile de se moquer des plus petits partis en disant ils sont ridicules et tout, des micro-partis et tout, mais
peut-être des micro-partis qui sont hyper sincères. Hein. Il y a peut-être des gens vraiment sincèrement convaincus dans ce petit parti-là qui considèrent avoir raison et qui pensent que leurs idées sont les bonnes et qu'ils les défendent. Bah, si je te dise, let's go, enfin, t'as le droit, pas de problème. Présente-toi aux élections, quoi. Ça ne veut pas dire que je vais voter pour, mais qui, encore une fois, qui on est pour juger ?493 partis en France en 2017. Eh ben mon vieux, moi j'avais le chiffre de 300, ça doit être un vieux chiffre que j'avais en tête. 493 partis en France. Voilà. C'est quoi le dernier grand parti qu'on a vu émerger en France ? La République En Marche ? Un an et demi d'existence, un président de la République, 300 députés. Pas le NFP. Le NFP n'est pas un parti politique. Le NFP est une coalition de partis politiques. Horizon, oui, Horizon, effectivement, Horizon. Et Horizon est un spin-off de La République En Marche. Mais oui, tu as raison, il y a Horizon. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, Reconquête, bon, qui était donné à un grand avenir, mais qui finalement a fait un score assez décevant à l'élection présidentielle et un score encore plus décevant aux élections législatives suivantes. Est-ce qu'on a des exemples de partis formés par des anonymes qui a grandi organiquement jusqu'à devenir l'un des principaux, genre Start from the Bottom? Bah Emmanuel Macron. Non mais encore une fois, La République En Marche. Faut pas me dire qu'Emmanuel Macron était un apparatchik d'aucun parti. Emmanuel Macron n'était pas un grand responsable politique français, connu du grand public, etc. Hein. Donc, ouais, La République En Marche. Il était ministre de l'économie quand même. Ouais, il était. Enfin, oui, il avait été nommé ministre de l'économie après avoir été secrétaire général adjoint de l'Élysée. Encore une fois, pardon. Emmanuel Macron n'était pas un apparatchik du Parti Socialiste. C'était pas un éléphant du PS. C'était pas un poids lourd du PCF. Un maire, un président de région, un je sais pas quoi, c'était un relatif anonyme. C'est ce qu'on appelle une personnalité de la société civile dans le jargon. Donc, c'est pas. Il avait jamais été élu. Non, il n'avait jamais été élu. Ah non, il venait de la société civile. Il y a un cache investigation qui a expliqué comment Macron a détruit l'UMPS et s'est imposé. Pas sûr d'avoir besoin d'un cache investigation pour parce qu'en général on l'a tous vu hein. On l'a tous vu en direct sur cette chaîne, on a tous vécu le macronisme, Moi, je me souviens, dans mes premiers streams en 2015, les gens dans le chat qui me demandaient « Tu penses que Macron... » Je leur répondais, mais non. Macron, il a créé sa petite écurie, là, En Marche. Mec, il est ministre de l'économie, personne ne le connaît. Il n'a pas de territoire, pas de militants. Et en même temps, c'était normal que je réagisse comme ça. Parce que on vivait à l'époque, je vous rappelle qu'on est en 2015 après Jésus-Christ, hein. On vivait dans un pays, avec un bipartisme fort. 100% des gens qui avaient obtenu le pouvoir en France l'avaient obtenu par des années de travail politique. Emmanuel Macron a été le premier à faire ce qu'il a fait. Personne ne l'avait fait avant lui. Alors, c'est facile, du coup, rétrospectivement, aujourd'hui, de dire, ouais, vas-y, n'importe qui peut devenir président de la République et tout, créer son parti 2 ans plus tard, t'es président et tout. Mais en fait, à l'époque, non. Ça appartenait pas au domaine du possible. Et Giscard ? Ouais, Giscard, c'est un peu le seul exemple qu'on peut trouver. Giscard, il a été élu président de la République à la faveur d'une élection présidentielle express à laquelle personne n'était préparé, dans un contexte un peu particulier. Donc ouais, peut-être Giscard, ouais. Macron peut remercier Fillon, l'escroc, et Hollande qui ne s'est pas représenté. Ah oui, non, par ailleurs, excusez-moi, on va quand même revenir sur cette année 2015, à l'époque où je disais aux gens, ouais, Emmanuel Macron, j'y crois pas trop. Je vous rappelle qu'à l'époque où je prononçais ces mots, François Hollande ne s'était pas encore retiré de la course. Et la primaire des Républicains n'avait pas encore eu lieu. Ok ? Donc moi, dans mon univers, là, j'avais qui ? Jean-Luc Mélenchon, François Hollande, Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé, François Bayrou, Marine Le Pen. Que des poids lourds. Que des giga poids lourds. Donc à l'époque, tu me demandais sur le chat, et sinon, le ministre de l'économie, là, Macron, t'y crois à son truc ? Moi, je répondais, je te dise, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, en face, on a l'UMP. On a l'UMP, on a le Parti Socialiste, qui ont des armées de militants, qui ont des élus locaux partout, qui ont des fédés, qui ont des machins, enfin... C'était déjà LR ? Ouais, c'était déjà... ah oui, c'était peut-être déjà LR, t'as raison, c'était plus l'UMP. Donc ouais, non, clairement, à l'époque, virgule, l'hypothèse Macron, tout le monde n'y croyait pas. Et me faites pas croire que vous, vous y croyez. Me faites pas croire que vous, en 2015, vous disiez « Ouais, Macron va être président de la République, il aura 300 députés. » Franchement, vous pouvez vous raconter ça à vous-même, rétrospectivement, en disant « Ouais, c'était sûr. Non, mais c'était sûr. » Si vous voulez, vous pouvez. Moi, j'ai l'honnêteté de vous dire que moi, pas du tout. Pas du tout. En 2015, quand il avait fait sa conférence de presse à Bercy, en la quittant avec un bateau sur la Seine, ça m'avait fait plus rire qu'autre chose. Mais moi aussi, enfin, chez moi aussi, c'est...
Éric Lombard, tiens, voilà, on va faire ça, les gars. Vous savez quoi, regardez, on est en 2025, ok? On est en 2025. Éric Lombard, ministre de l'économie, là, aujourd'hui. Éric Lombard, il est président de la République en 2027. Vous y croyez? Genre, c'est solide, c'est cohérent, ça a du sens et tout, machin? Ben voilà, ben c'était pareil. 2015, Macron, pareil. 2015, Macron, pareil. Ministre de l'économie et des finances, globalement inconnu du grand public il y a encore 2 mois. Il n'y a pas encore eu l'affaire Fillon, il n'y a pas encore eu la primaire LR, il n'y a pas encore eu le retrait de Hollande, il n'y a pas eu la primaire PS, il n'y a, pas eu l'entrée en campagne de Mélenchon. Enfin, non mais... Impossible, il n'y a que des poids lourds en face. Non mais voilà, c'est ça. En créant un parti nouveau en plus, pas en reprenant une écurie existante. Ah oui, t'as raison. Non, t'as raison. C'est pas Éric Lombard qui reprend Renaissance. Non, 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 non. C'est Éric Lombard qui repart de zéro en créant son propre parti. Genre 1 an et demi avant la présidentielle, il crée un parti politique. Un truc qu'on n'a jamais vu, nouveau, pas d'élu, pas de... rien. Un truc où il faut envoyer son CV en ligne pour être investi candidat. Voilà, c'est ce genre de parti-là. Genre pas sérieux, tu sais, genre vraiment what the fuck, tu vois. Donc voilà. Donc non, 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 moi je maintiens qu'en 2015, l'hypothèse Macron... J'y croyais pas un quart de seconde. Plot twist, il le fait vraiment. Il va falloir retrouver l'archive de mon stream où je disais ça. Il crée le parti En Liberté. EL. Ah ouais, j'aime bien. EL, En Liberté. Avec Lombard. Et t'envoies ton CV pour être député. Juan Branco est déjà candidat. Ah, ah bah ça change la donne. Personne n'a dit que c'était prévisible en 2015, ceci dit, juste que sa victoire n'est pas inexplicable non plus quand tu regardes le contexte au jour de l'élection et la campagne dont il a bénéficié. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas me reprocher en 2015 de ne pas avoir les connaissances des conditions de 2017. Évidemment qu'en 2017, moi j'étais comme tout le monde, j'ai regardé la campagne, j'ai fait ok, en fait il va très probablement être au second tour et il va très probablement battre Marine Le Pen. Mais entre-temps, Fillon s'était pété la gueule, Hollande s'était barré, la primaire du PS s'était très mal passée, Benoît Hamon n'était pas soutenu. Voilà. Enfin, tu veux, c'est toujours une question de contexte, en fait. Donc non, dans le contexte de 2015, j'y crois pas du tout à la victoire d'Emmanuel Macron. Contexte de 2017, j'y crois carrément. En attendant, on parle de Gabriel Attal pour la présidentielle de 2027. Je sais pas. J'ai lu le papier du Monde. J'ai lu le papier du Monde pendant mes vacances sur Gabriel Attal. J'en sais rien. Je pense que Gabriel Attal, il a encore du chemin à faire. Qu'il n'est pas impossible qu'il le fasse. Je suis convaincu qu'il ait envie de le faire, ça c'est sûr. Et je pense qu'il va finir par y arriver. Et quand je dis y arriver, ça ne veut pas dire être élu président de la République, mais créer son trou, créer son parti, créer son mouvement, son truc.
son identité politique, etc. Darmanin 2027, il fait une Sarkozy en ce moment. Ouais. Gérald Darmanin, il est clairement très très bien positionné. Hein. Ministère de la Justice, il fait une campagne incroyable médiatiquement et exactement sur le modèle de Nicolas Sarkozy en 2006. C'est exactement le même, la même structure de campagne médiatique. Est-ce que tu crois possible un plan Medvedev de Macron pour un retour en 2032? Alors non, tu fais référence, le plan Medvedev, c'est Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, qui quitte la présidence parce que la Constitution l'empêche de faire un troisième mandat, qui met à sa place Medvedev, qui devient donc président. Vladimir Poutine devient Premier ministre. Puis il reprend sa place quand la Constitution lui permet de se représenter. C'était le principe, c'est le principe de l'échange de fauteuils le temps que. Mais on sait très bien que dans les coulisses, celui qui tire les ficelles, c'est Poutine. C'est pas Medvedev. Est-ce que je crois à ce scénario pour Emmanuel Macron? Non, parce que je vois pas Emmanuel Macron réussir à faire élire un macroniste en 2027. Je ne pense pas que les Français, pour tout vous dire, vont massivement voter pour un macroniste en 2027. Je pense que voilà, 10 ans de macronisme, ça aura pas mal essoré l'opinion publique, qui n'a pas vraiment envie de continuer dans cette direction. Je ne sais pas qui ce sera. Alors ça, j'en sais rien. Est-ce que ce sera le RN? Est-ce que ce sera la gauche? Quelle gauche? J'en sais rien. On verra. Par contre, pour reprendre ta question, est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait revenir en politique plus tard pour une autre élection présidentielle 2032, 2037, etc. Oui, c'est complètement possible. C'est complètement possible. Emmanuel Macron est un président jeune. Voilà. Il ne va pas mourir demain matin. Je ne sais pas si la politique ne va pas lui manquer à un moment. Voilà. Regardez, même François Hollande est en train de revenir. Je ne sais pas où il ira, je ne sais même pas quelles sont ses ambitions personnelles à François Hollande, mais même Hollande, qui n'est pas de la plus grande des fraîcheurs, est en train de revenir. Bon, bah voilà. Donc je vois pas du tout pourquoi. Nicolas Sarkozy, pardon, mais je vous rappelle que Nicolas Sarkozy a essayé de revenir. En 2016, Nicolas Sarkozy est revenu en politique, il a repris la présidence du parti, il a organisé une primaire, etc. Donc voilà, un ancien président de la République qui essaye de redevenir président de la République, c'était difficile à imaginer avec Mitterrand et Chirac, parce qu'ils étaient tous les deux vieux. Donc, bon, voilà, il y a un moment... Mais à partir de Sarkozy, Hollande, Mélenchon... Macron, on a que des jeunes, relativement jeunes, en tout cas suffisamment jeunes pour imaginer que ce soit possible de revenir. Après, si vous me demandez si Mélenchon, après son deuxième mandat de président de la République... pourra revenir président de la République. Ah, c'est dur à imaginer. C'est dur à imaginer. Pas sûr que son taux de popularité le permettra.
Et pas sûr que les Français en aient envie. Mais ça, on verra. Ça, on verra.
Je crois que tu t'emmènes dans les noms. Non, j'ai bien dit Mélenchon. Justement, c'était la blague. Plutôt des ambitions européennes pour Macron. Alors, c'est ce que je pense aussi. Je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron ait très envie de revenir président de la République française. Peut-être qu'il aurait envie d'un poste européen. qui correspondrait assez bien à sa pensée, à son à ses idées, etc. Président du conseil, peut-être la présidence du conseil, ouais. Ouais, ça m'étonnerait pas, ouais. Sarko l'avait voulu avant lui, hein. Sarko l'avait clairement voulu avant lui. Oh. Est-ce que vous me suivez sur Blue Sky? Est-ce que vous me suivez sur Blue Sky? Hop. Si c'est pas encore le cas, je voulais vous montrer la proc de la semaine parce que désormais, je vais publier la programmation de mes streams sur Blue Sky le lundi. Donc, je vous suggère d'aller sur Blue Sky si vous voulez savoir quels sont mes streams prévus cette semaine. Revue d'actu aujourd'hui. Demain, je vous rappelle qu'à partir de 14h, nous avons le discours de politique générale de François Bayrou. Moment important, on va tendre l'oreille très très fort pour savoir si oui ou non François Bayrou parle de la mise en pause de la réforme des retraites. Le mercredi, question au gouvernement à 13h. Le jeudi, il n'y a toujours pas Baxit, on reprend le 23, FAQ politique. Et vendredi, on verra. Merci d'avoir été là les copains, on va s'arrêter là ce soir. C'était chouette, je vous fais des zoubis. Merci les subs et les resubs, vous êtes au top. Merci pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao, bye bye.